Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue sur la Dartosphère pour la deuxième saison du service après-vente de la F1. Pour ceux qui nous découvriraient, le service après-vente de la Formule 1 est un podcast d'après Grand Prix de Formule 1, 100% amateur et partisan, sentant fortement la bricole et parfois la picole. Mais avant tout, le service après-vente de la F1, c'est une équipe, mais petite nouveauté cette année, un troisième larron se joindra à notre fanfare en fin d'émission. Au menu de cette émission d'avant-saison, un passage en revue rapide des forces en présence, notamment avec la nouvelle écurie de Ross Brawn, qui aura impressionné tout son petit monde, un petit rappel du calendrier, et bien sûr, un long retour sur les nouveaux règlements pour les saisons à venir. Sans plus attendre, ouvrons donc cette émission en compagnie de mon compagnon de route. Salut Shinji, comment vas-tu ?
Bonjour !
Bonjour ! Voilà, on recommence encore avec... C'est nos petits génériques, après le générique, ton bonjour si joyeux et chaleureux qui accueille le printemps et la saison de Formule 1.
Ouais.
C'est beau ce que je dis. Hein. Tiens, en parlant de printemps, on a eu un hiver.
Bah, la F1 avec le premier titre de Lewis Hamilton.
Oui.
Très beau Grand Prix du Brésil quand même.
Ouais, ouais. Sauf la fin.
Et donc, on sort d'une intersaison assez agitée, faut bien le dire.
Ouais, sauf du côté des pilotes.
Ah oui, ça, côté pilote...
Le seul transfert remarquable du côté des pilotes, c'est un transfert interne. Vettel qui part de chez Toro Rosso pour aller chez Red Bull. Mm. En qualité de premier pilote. Ah. Et donc, Weber va faire de la figuration.
Ah là, ça va être dur cette année pour Weber.
Ouais, parce qu'en plus, apparemment, la voiture plaît bien, Vettel. Donc,
Et ce qui fait qu'on n'a qu'un seul rookie cette année, en plus. Buemi.
Effectivement.
Il prend la place de Vettel.
Ah non, il prend la place de Bourdais.
On compte les numéros de voiture.
Ah, si on compte les numéros de voiture, il est deuxième. Parce que c'est effectivement, c'est la bonne nouvelle. D'abord, c'est que Bourdais donc, va revenir, a le droit à un deuxième ticket cette saison avec Toro Rosso. Après une attente interminable. Oui, là, on a sans bien passé l'attente. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris cette semaine que dans la liste officielle des numéros de voiture, il était le numéro 1 chez Toro Rosso à la demande de l'équipe. Bon, ça veut dire, ça veut pas dire grand chose, mais.
Il est le pilote d'expérience, entre guillemets.
Voilà. Un autre pilote qui sera numéro 1 par le souhait de son équipe, c'est Massa. Normal.
Oui, au vu du championnat l'an dernier, c'est logique.
Ça avait été un petit peu une des sagas de cet hiver, c'est que un coup Massa avait le 3, un coup c'est Raikkonen qui l'avait, un coup Raikkonen avait le 4 et Massa avait le 4, et puis après on ne savait plus. La FIA a donné des numéros, Ferrari n'était pas d'accord. Là c'est officiel, Massa sera numéro 3 et Kimi Raikkonen sera numéro 4.
4.
Donc ce qui nous fait au niveau des équipes.
Tu veux parler de la liste officielle des pilotes ?
Ouais. Histoire qu'on passe un petit peu en revue le plateau de cette saison, même si...
Oui, il n'y a pas de surprise. Hein, donc,
oui, il y a une surprise. Elle fait dans les 1m85, oui. Elle est plutôt balèze, elle a 35 ans bien tassée, c'est Rubens Barrichello.
Oui, ça hein c'est sûr.
Ça c'est quand même le trouage de cul intégral pour tous les fans de Formule 1 cette saison. Rubens Barrichello qui sera là la saison prochaine, enfin cette saison, avec la Brawn Grand Prix. Laissant ainsi sur la touche le pauvre Bruno Senna,
oui.
Qui ne peut que s'en vouloir à lui-même, hein, il avait qu'à garder une porte pour la Spa en GP2.
La liste.
Ouais.
Alors, la liste, numéro 1, Lewis Hamilton, c'est logique. Kovalainen, le numéro 2. Donc, chez Ferrari, Felipe Massa.
C'est bizarre parce que quelque chose me dit que ça va encore être une année où le mec à numéro 1 ne va pas gagner.
C'est vrai que ça paraît mal barré.
On en parlera sur les équipes, mais...
La saison est longue.
Elle me semble bien partie.
Donc, chez Ferrari, donc tu l'as dit, Massa 3, Raikkonen 4. BMW, Kubica 5, Hedfeld 6. Renault, Alonso, Piquet 8.
Ouais.
Toyota, Trulli 9, Glock 10.
Tout à fait.
Toro Rosso. Franchement, les voir aussi haut,
c'est les entendre avant.
Ouais. Donc, Bourdais 11, Buemi 12.
Voilà.
Red Bull, donc, j'ai Weber 14, Vettel 15. Toyota, Rosberg 16, Nakajima 17.
Nakajima, il fait de la F1.
Oui.
J'ai pas vu.
Ça va être lui le premier à péter un nez, donc. Ensuite, Force India. Donc, Sutil 18, physique est là. Il y a encore la physique est là.
C'est dingue, hein.
Et donc, Brawl GP. Grand Prix. Ouais. C'est pas les rasoirs, hein. C'est autre chose. Button 20, Barrichello 21.
Barrichello
bien... Ouais. En plus, il a le dernier numéro.
Ah bah, il est habitué à être dernier. Enfin, dans le sport des numéros. Parce qu'il est souvent habitué à être deuxième.
Oui. Qu'on aura bien 10 équipes et 20 voitures.
Voilà, comme l'année dernière. En attendant.
Parce que c'était pas sûr, quand même.
C'était pas sûr. Mais en plus, parce que c'est vrai que ça a été l'un des feuilletons de l'été. Je pense qu'on y reviendra sur Bon Grand Prix de l'été. De l'hiver. Quand il fait froid et qu'il neige, Yannick, c'est l'hiver. Ça a été l'un des feuilletons. En plus, on sait que l'année prochaine, il y aura sans doute une 11e équipe avec le projet USF1 Grand Prix Enterprise.
Ouais.
On peut même plus dire USF1 maintenant, on est obligé de dire USGPE.
Oui.
Voilà, beaucoup moins vendeur, beaucoup moins joli comme nom. Hein. Et puis bon, avec les budgets à 12,50€, ça devrait le faire. Hein.
Ah oui, là, oui.
Là, on va avoir plein de mecs qui vont venir faire des équipes de Formule 1, tout. Coulthard va revenir, Barrichello va revenir. Allez-y va revenir. Non, pas allez-y, non. Donc voilà pour le plateau de Formule 1, un plateau qui est assez enthousiasmant, parce que c'est vrai qu'on a, comme l'année dernière, on a pas mal déjà de grands pilotes comme Alonso, Raikkonen et compagnie qui sont sur devant. Mais en plus, on a des pilotes comme Vettel.
Oui.
Peut-être une des révélations de cette saison. Enfin, quoi qu'il était déjà l'année dernière.
On a vraiment des top pilotes, des pilotes plus jeunes mais qui sont très prometteurs. Il n'y a globalement pas de pilotes à portefeuille.
Même Barrichello.
Voilà. Ça aussi, c'est quand même appréciable.
Bourdais, c'est sûr, c'est plein de pilotes à portefeuille.
Ah non. On peut dire merci à la crise.
Voilà. Et donc, ouais, c'est un plateau cette saison qui va être plutôt sympa, même s'il ne change pas beaucoup. On arrive dans une belle période, je pense.
Ça aussi, c'est étonnant. C'est cette stabilité. Mais bon, c'est vrai qu'avec les changements de règlement technique...
Ah, puis il faut avouer que cette année, Alonso a décidé de rester dans l'écurie où il était.
Oui, donc forcément. Hein.
Même s'il y a eu du suspense à un moment donné. D'ailleurs, ça a été l'une des rumeurs cet hiver. Au début de l'hiver, ça a été Alonso chez Ferrari en 2010. C'était dire à quel point on s'ennuyait sur la saison 2009 parce qu'on pensait déjà à 2010. Même si je suis convaincu qu'il sera chez Ferrari en 2010. Parce que Renault va rien faire cette année.
Oh oui. Donc, on a parlé de pilote. Mais même en ce qui concerne les voitures en elles-mêmes et les accords entre châssis motoristes, il y a aussi eu cette année, il y en a une qui est assez incroyable, c'est que le moteur le plus représenté du plateau...
C'est plus Ferrari.
C'est plus le moteur Ferrari.
C'est Mercedes.
C'est le Mercedes.
Et si on avait dit ça à Kimi Räikkönen en 2005, il ne l'aurait pas cru. Hein, un moteur Mercedes plus représenté que là, un moteur Ferrari.
Je crois que peu de monde y aurait cru, même il y a encore un an.
Ouais.
Donc il y a Force India.
Oui, qui apparemment n'auront pas seulement le moteur, mais qui auront aussi la boîte de vitesse et le KERS de chez Mercedes.
Oui, oui, même s'ils s'en défendent, ça a un peu des allures d'équipe bis, puisqu'il y a des gens de Mercedes qui sont dans l'équipe. On a parlé à un moment de De La Rosa pour remplacer Fisichella.
Ah, oh De La Rosa, oh, oh chouchou, qui a osé dire, si en 2010 je suis pas en Formule 1, j'arrête. Mais il fallait arrêter il y a au moins 10 ans, hein. Oh, De La Rosa, écoute-nous, hein, s'il te plaît, va-t'en. Déjà que Bruno Senna, il arrive pas à avoir de place, alors De La Rosa, il espère avoir un volant en 2010, non mais je rêve.
Ouais. Et donc la troisième équipe, c'est Brawn. Bien évidemment, ils ont perdu les moteurs Honda et ils ont récupéré les moteurs Mercedes.
Tout en sachant que la future équipe américaine est en négociation avec Mercedes.
En plus.
Donc en fait, ça va devenir un championnat monotype avec que les moteurs Mercedes. Et c'est ce que voulaient Bernie et Maxou. Hein. Ils voulaient faire une Formule 1 avec tout le monde le même moteur. Un moteur Mercedes dans une Ferrari. Ça serait super beau.
À noter aussi en ce qui concerne le KERS. Donc bien évidemment, Force India, ils récupèrent la boîte, le moteur et le KERS Mercedes. Mais Red Bull ne va pas développer son KERS. Ils vont utiliser donc
le KERS Renault. Voilà.
Donc, ils vont utiliser le KERS Ferrari.
Ça c'est pas, ça, moi j'ai pas eu de confirmation. C'est vrai que c'est le problème de Toro Rosso, c'est on sait pas lequel ils vont utiliser. On sait que Red Bull avait déjà développé un Kers pour eux,
Ouais, alors
et
ça le
apparemment
donnerait Toro Rosso.
ils en étaient pas satisfaits. Donc peut-être que si le Kers fonctionne pas très bien, ils le donneront à Toro Rosso pour l'éprouver. Et puis de toute façon, à la limite, Toro Rosso peut très bien faire une saison sans Kers.
Oui, ils
Puisque
sont
dans
pas
les
obligés
nouveaux
cette année.
règlements, il y aura sans doute le Kers standard dès l'année prochaine.
Ouais.
Ils auraient dû le faire dès le départ, ça. Mais bon. Et donc, s'il y a le Kers standard, de toute façon, tout le monde l'année prochaine sera sur un pied d'égalité. Donc, il y a certaines équipes, personnellement, moi je pense qu'il y a certaines équipes, notamment Toro Rosso, qui cette année pourraient se passer du Kers.
Ouais.
Et apparemment, pour le Grand Prix Melbourne, Ferrari aura son Kers, McLaren aura son Kers, Renault aura son Kers, BMW, c'est pas sûr.
Pourtant, ils avaient l'air avancés.
Bah, ils avaient l'air avancés, ils étaient les premiers à l'avoir testé cet été
Ouais.
lors des essais, et apparemment, moi j'ai cru lire à certains endroits qu'ils n'étaient pas sûrs et ils attendraient peut-être davantage Sepang ou la Chine pour y aller. Il y a des équipes qui vont attendre comme Force India, parce que Force India, ils ont dû reprendre un peu la voiture en remettant tout le moteur, donc je pense qu'ils vont attendre un peu. Apparemment, Toyota, je pense qu'ils vont mettre le Kers, mais pas en début de saison, ils vont peut-être attendre un petit peu aussi. De toute
Ouais.
façon, ils ont leur diffuseur qui va les aider à gagner, donc. Donc voilà, pour le Kers, c'est un peu le bazar quand même.
Oui, ben comme c'est pas obligatoire.
Mais en plus, c'est
En
surtout
plus,
ça,
c'est pas.
c'est pas obligatoire et puis ça va être standardisé dès l'année prochaine, donc il n'y a aucun intérêt de l'introduire dès cette année. Et le plus stupide, c'est que la seule équipe qui s'y est opposée, elle est même pas sûre de le mettre dès Melbourne, c'est BMW. Donc c'est un peu
Pourtant,
débile.
on ne sait pas quel est le réel avantage, hein, parce que c'est vrai que ça apporte un surplus de puissance, mais c'est lourd.
Ben voilà, c'est lourd. Il y a certaines équipes qui songent même que sur certaines courses, ils vont se passer du Kers, parce que ce qu'ils peuvent gagner en termes de poids sur la voiture, enfin, ils vont pas gagner en poids, mais ils vont gagner en lest, qu'ils pourront mieux répartir sur la voiture. Ben en termes de lest, ils seront peut-être plus gagnants que s'ils embarquent le Kers et qui offrira, ben, sur des circuits qui ont peu de lignes droites. Par exemple, pourquoi pas le Hungaroring, le Kers sera pas forcément très utile. Donc voilà, côté des anciennes écuries qui bougent assez peu.
Oui.
Mais il y a le feuilleton de l'hiver.
Ah, le grand feuilleton. Moi, honnêtement, j'y croyais pas. Hein.
Moi, j'y croyais. Je pensais que ça allait être acheté. Je pensais que vraiment la dernière solution, ce serait le rachat de Braun.
Moi, je pensais que ça pourrait se faire facilement si ça se faisait tôt. Et donc, plus le temps avançait, plus ça serait compliqué. Finalement, ça s'est fait assez tard. Et, bon,
et ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais le truc, c'est que c'est très très vite, dès l'annonce, donc pour revenir sur les faits, hein, Honda a annoncé à la surprise générale, soi-disant à cause de la crise, qu'il sortirait de la F1 au début du mois de décembre. C'est aussi révélateur d'une équipe qui, depuis 2 ans, végète dans la compétition. Alors, sur 4 ans de bilan, avoir 2 saisons où on se bat pour les dernières places, c'est pas terrible. Donc, il y avait de ça, et c'est vrai que l'équipe a essayé de se faire racheter. À un moment donné, on a parlé d'une douzaine de potentiels racheteurs, dont Carlos Slim, qui est un milliardaire mexicain. On a eu après la parenthèse Virgin, qui lui a clairement fait entendre ses conditions.
Il y a eu ProDrive.
Il y a eu ProDrive, qui a très vite renoncé, eux, par contre.
Ouais.
Et puis,
il y a eu Ecclestone lui-même.
Oui, vers la fin, ouais. C'est vrai qu'on parlait de Ecclestone. Avec, même avec Mosley, enfin, il y avait l'idée pour maintenir une 10e écurie. Mais c'est vrai que plus ça avançait, plus ça prenait des airs d'Arlésienne. Petrobras, qui avait signé un contrat avec Honda, annonçait son départ. Donc, ça a retiré une épine du pied parce qu'on avait, l'hypothèse, c'était un rachat par Petrobras, en partenariat, pourquoi pas, avec Braun et compagnie. Et c'est vrai que plus ça avançait, plus on avait des hypothèses, folles. Et c'est vrai que quand on en est arrivé à dire, bah, peut-être que Braun va l'acheter, personne n'y croyait. Et finalement.
C'est Braun qui l'a acheté.
Voilà, avec cette magnifique couleur. la voiture est peut-être rapide, hein, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Les couleurs, hein, les couleurs.
Jaune fluo et noir.
C'est terrible.
Il y a beaucoup de blanc. Il y en a même beaucoup.
Mais en fait, apparemment, le jaune et noir, c'est parce qu'ils vont être sponsor... ils pourraient être sponsorisés par, par un site de paris en ligne, c'est Bête Machin, là. Bon, le truc, c'est qu'on a vu encore aucun sponsor sur la voiture. Même si...
Parce qu'on enregistre, on est le 25 mars.
Voilà.
Là, il y a eu des informations. Il y aura un contentieux financier. Parce que vous avez remarqué, quand j'ai donné la liste des pilotes, Braun, c'est les équipes, c'est les pilotes 20 et 21.
Voilà.
Donc, comme si c'était une nouvelle équipe, toute nouvelle équipe, ex nihilo, que dalle. Sauf que, bah, avant, l'équipe, c'était Honda.
Ouais.
On est bien d'accord. Et que, il y a les droits télé.
Tout à fait.
Parce que, au titre de l'année 2008, Honda aurait dû récupérer 22 millions de dollars.
Ah, donc ils vont rien récupérer.
Braun, ils disent, on a changé de nom, on a changé de motoriste, mais fondamentalement, c'est la même structure que Honda. Donc, on doit récupérer ces 22 millions. Et Bernie dit, non, vous êtes une nouvelle équipe, vous vous démerdez.
Ouais, alors...
Et la numérotation des pilotes laisse supposer que c'est une nouvelle équipe, parce que sinon, ils ne seraient pas 20-21, ils seraient devant Force India.
Ouais, parce qu'ils avaient marqué des points l'année dernière. Ouais. On a marqué 8 ou 9, hein.
Sachant que, bon, c'est un peu particulier, parce que on peut supposer qu'ils n'ont pas payé le droit d'entrée à la F1.
Ouais. Parce il y a eu, de toute façon, il y a eu un arrangement avec les pilotes, enfin avec les autres écuries qui ont attendu, enfin qui ont laissé la possibilité à l'écurie de changer de nom, de changer de statut jusqu'à la veille de la saison. Donc,
une position assez floue et ces 22 millions, l'équipe en a besoin.
Ça, oui. On dit Braun Grand Prix, mais c'est en fait quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire que ça a été racheté, le principal acheteur c'est Braun, mais en fait, même Nick Fry a mis de l'argent dedans, je crois qu'il y a 6 ou 7 anciens dirigeants de l'écurie Honda qui ont mis de l'argent dedans, il y a de l'argent d'investisseurs privés, donc c'est Braun Grand Prix, mais c'est pas Braun qui a acheté 100% de l'écurie, non. C'est vraiment une écurie, c'est un gros montage financier, et c'est d'ailleurs la question... On voit les résultats et beaucoup ont parlé du bluff de Braun, même si moi j'ai du mal à y croire, pour attirer des sponsors. Moi après je pense que Braun est quelqu'un d'intelligent et qui sait que c'est pas sur les essais d'intersaison qu'il faut attirer les publicitaires, mais c'est sur la saison. Donc je pense que ils ont pas vraiment bluffé les résultats, ils se sont donnés à fond. Et puis c'est pas nécessairement une grosse surprise, hein. C'est quand même ils ont tout hérité de chez Honda. Ils avaient abandonné de toute façon le programme 2008 très tôt. Braun était arrivé en disant moi la voiture 2008 elle m'intéresse pas, je me concentre sur 2009. Ils étaient en avance sur le KERS, ils étaient en avance sur tous les secteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont l'une des voitures les plus abouties. D'ailleurs qui n'est pas sans rappeler les F2002 et F2004. Je pense pas, moi, pour le moment, que c'est une écurie qui soit en recherche de sponsors. Je pense que il sait très bien que ça va être très très dur de tenir sur le début de saison, mais que si l'écurie fait des bons résultats et est devant, ne serait-ce qu'à Melbourne, va y avoir des gros sponsors qui vont débarquer, comme pourquoi pas Virgin, etc.
Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'ils finissent la saison. Hein. Les plus pessimistes disent qu'il y a de l'argent que pour 3-4 courses. D'autres pour une dizaine, une douzaine.
Voilà. C'est ce qui explique bien, c'est une dizaine, une douzaine, même si au sein de l'équipe on dit que ils ont des finances qui sont saines.
Oui, surtout que c'est surtout cette année qu'il faut tenir. Prochain, il y aura tous les processus de réduction des coûts qui vont continuer à s'enclencher. Donc c'est surtout cette année qu'il faut qu'ils tiennent.
Et puis de toute façon, une équipe c'est comme les pilotes. Hein. On a toujours dit concernant les pilotes que la plus difficile des années c'est la première parce qu'il faut pouvoir revenir une deuxième année. Les écuries, c'est pareil. On a vu avec le feuilleton Spyker, il y avait eu Midland et compagnie. Force India a fait tout ce qu'il fallait pour revenir une deuxième saison. Moi, je pense que du côté de Braun Grand Prix, on a quand même les armes pour rester une deuxième saison avec, même si Barrichello est vieillissant, ça reste un bon pilote. Et puis bon, bah Button, ça, c'est Button et je pense qu'avec une bonne voiture, il va s'éclater. Et puis bon, bah c'est quand même Braun qui a la tête. C'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui a gagné lors des 20 dernières années. Il a gagné 2 championnats avec Schumacher, il a gagné, je crois, 5 titres avec 6 titres constructeurs avec Ferrari. C'est un nom, il s'est imposé tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Vaut mieux d'ailleurs que ce soit au nom de, au nom de Braun qu'au nom de Fry.
Oui.
Parce que c'est ça aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un montage financier, et donc s'ils ont mis le nom de Braun, c'est aussi parce que le nom de Braun va faire venir du sponsor, va donner de la crédibilité à l'équipe, et c'est vrai que les premiers résultats ont confirmé.
Puis il vaut mieux que ce soit lui que Bernie. Non, parce qu'il a vraiment voulu, hein. D'ailleurs, le coût des 22 millions, il se dit que c'est aussi un peu parce que, ils ont refusé son offre.
Ouais. En même temps, les 22 millions, c'est aussi un petit peu normal, parce que il y a quand même beaucoup de passe droit pour que l'écurie reste, parce que la Formule 1, on a besoin, mais bon, l'écurie aussi, on avait besoin, donc il y a eu beaucoup de passe droit sur le nom, leur accordé des délais en plus. C'est vrai que, apparemment, on ne sait pas s'ils ont payé les droits d'entrée, donc peut-être qu'il y a eu un mélange comme ça, peut-être qu'ils se sont mis d'accord et qu'on leur a dit, écoutez, vous êtes exemptés des droits d'entrée, mais par contre, votre part des retransmissions audiovisuelles, donc voilà, ça c'est au niveau des écuries.
On peut peut-être évoquer le calendrier.
Oui.
Alors, c'est pareil, hein, le calendrier y est assez peu de changements. Alors,
on en avait déjà parlé l'année dernière, lors de la dernière mission. C'est vrai que le calendrier 2009 a été est plutôt intéressant parce qu'il est très crescendo et on va avoir un final, théoriquement un beau final de championnat.
Bah, limite, je vais vous donner la liste.
Bah voilà.
Avec les dates. Donc, ce week-end, le
29 mars.
Le 29 mars, c'est tard.
Ouais, c'est...
Donc, l'Australie.
Voilà. Le 5 avril, on ira...
À Sepang.
En Malaisie. Donc,
en Malaisie.
Le 19 avril.
Le 19. À Shanghai, en Chine.
Petite donc, nouveauté.
Le Grand Prix change de place.
Voilà, pas plus mal. Hein. On met les grands prix de merde au début, puis on garde les grands prix à la fin. Hein.
Ensuite, premier Grand Prix européen en Espagne à Barcelone.
Ah non, il y a Bahreïn le 26 avril avant.
Ah oui. Bon, c'est Bahreïn. C'est pas un circuit, ça. C'est ni un circuit ni un Grand Prix.
Non, t'as pas le droit de dire ça. J'aime bien.
T'aimes bien la Hongrie aussi. Non, ça veut tout dire.
C'est petit, ça. Non, ça c'est petit. Tout, tout, tout. Votre correspondant n'est plus en ligne actuellement. Veuillez renouveler votre appel.
Donc Bahreïn le 26.
Je proteste! J'adore le Hungaroring!
Le premier Grand Prix européen à Barcelone.
Voilà.
Le 24 mai, Monaco.
Oh, Monaco.
Le 7 juin, la Turquie, Istanbul. Qui change aussi un peu de place.
Oui, parce qu'il était plutôt dans la saison.
Plus tard.
Un coup, il a été plus tôt. Je crois que c'est il y a 2 ans, il était en début de saison. Il y avait eu, je crois que c'est la 4e édition. Il y avait eu la première année, c'était au mois d'août. Après, ça avait été mis au mois d'avril. Après, je crois que c'est revenu au mois d'août. Et puis là, c'est au mois de juin. Donc c'est
le 21 juin.
Le Grand Prix de Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne à Silverstone pour le dernier.
Oui, c'est vrai.
L'an prochain, c'est Donington.
Ah oui, puis même si c'est pas Donington, de toute façon, Bernie, il a dit qu'on viendrait pas à Silverstone. Il plaisante pas, hein.
Ah bah oui. C'est ça, c'est qu'il plaisante pas. Le 12 juillet, l'Allemagne au Nürburgring.
Voilà, donc, ce qui fait qu'on aura une pause de 3 semaines. Parce qu'on a perdu le Grand Prix de France. Voilà.
Ouais. Et le Canada, parce que c'est aussi pareil, c'était dans ces eaux-là, c'était juin. Le 26 juillet, la Hongrie, à Budapest.
Wouhou !
Ensuite, il y aura la pause estivale.
Ouais, un mois.
Voyons, un mois. Ouais.
Ils sont pas chier.
On risquait de ne pas avoir de pause cette année, parce que s'il y avait tout eu, on aurait pu atteindre les 20 Grands Prix. Finalement, ils ont un mois de pause. Donc, le Grand Prix d'Europe à Valence, le 23.
Ouh.
La Belgique, Spa, le 30.
Voilà, là, on rentre dans la belle période.
Dans la belle période. Le 13 septembre, l'Italie à Monza. Le 27 septembre, Singapour.
Le 4 octobre,
le Grand Prix du Japon à Suzuka. Puisque maintenant, c'est la règle d'alternance.
Ouais, mais non, mais de toute façon, même l'année prochaine, virez-nous Fuji. Hein. Gardez-nous Suzuka.
Oui. Yeah. Le 18 octobre, Interlagos, le Brésil.
Ouais.
Mais cette année, ça ne sera pas le dernier Grand Prix.
Puisqu'il y aura...
Le 1er novembre, il y aura le Grand Prix d'Abu Dhabi
bling
à Yas Marina.
Voilà, un beau Grand Prix bling bling. Wouhou.
Un truc très bling bling, très plat.
Ouais, je sais pas, j'ai pas vu.
Ça a l'air...
Sous les tribunes, il y a un virage qui passe sous un hôtel. Et puis il y a la sortie des stands qui va passer en dessous de la piste en fait. Voilà, on verra, ça peut être assez intéressant. On l'a quand même vu, ça fait deux saisons que le Grand Prix du Brésil offre un magnifique final et bon, on verra à Abu Dhabi, mais moi je suis pas persuadé que ce soit le meilleur endroit pour faire une fin de saison.
Oui, parce que bon, ça aura pas le côté populaire, ça c'est sûr.
Même si McLaren venait à remporter le titre, ce dont je doute, oh, comment je les enterre, il pourrait gagner à domicile.
Oui.
On l'a appris hier, hein, Abu Dhabi est rentré dans le capital de Daimler, et Daimler détenant Mercedes, ou je sais plus qui.
Oui, c'est ça, c'est Daimler, dont une des marques est Mercedes, qui et possède donc des parts de McLaren.
Voilà. Donc, ce qui fait que, à la fois, on peut considérer que l'Australie, allez, on va dire, c'est un petit peu à domicile parce que bon, Bruce McLaren était néo-zélandais, comme le dernier Grand Prix de Nouvelle-Zélande, ça fait un bail, on peut dire que c'est un petit peu chez lui. La Chine, parce qu'ils ont sans doute des investisseurs chinois dans leur équipe. Bahreïn, parce qu'ils avaient déjà les investisseurs bahreïni. Il y aura quoi d'autre? Il y aura l'Espagne pour Santander. Mais non, l'Espagne, ça compte pas. Il y aura la Grande-Bretagne, bien évidemment. Il y aura l'Allemagne. Et puis c'est tout. Là, c'est déjà pas mal. The Ferrari, ils vont rouler chez eux qu'à un seul endroit.
Bah si, il y a aussi Bahreïn, puis Abu Dhabi.
Ah oui, c'est vrai, oui, ils ont des... Ouais, de toute façon, tout le monde va courir à domicile chez Abu Dhabi. Qu'est-ce que je raconte, moi?
Comme à Monaco.
Voilà, tout le monde est chez eux. À Monaco, c'est les pilotes qui sont chez eux. À Abu Dhabi, c'est les financiers.
Voilà.
Ah, je suis désolé, je me distrais là, parce que je suis sur un site et il me propose des vidéos. Et première vidéo qu'il me propose, c'est la vidéo de l'incident de Felipe Massa au stand à Singapour. Voilà. Ça m'a fait sourire intérieurement, fallait que j'en parle. Voilà. C'est plus fort que moi. Donc, voilà un peu pour la présentation, pour le guide du service après-vente de la F1 pour la saison 2009. Une saison qui s'annonce donc réjouissante. On va maintenant se retrouver pour un petit débat autour justement des règlements 2009 et de leur intérêt. 5, 4, 3, 2. Qui c'est qui tu parles? Alors voilà, ça va pas faire comme ça. Il y aura pas de redémarrage parce que c'est trop bon. À qui tu parles, Enzo? À qui tu dis j'enregistre? Mesdames et messieurs, le grand début d'Enzo à la radio. Si on enregistre, taisez-vous. Alors ça, Enzo, c'est trop bon.
Moi, je fais des dessins d'habitude. Hein.
Alors, voilà, l'invité surprise et qui nous suivra, j'espère, cette saison. Sauf si, bien sûr, il ne survit pas à cette émission. Et au regard que vont porter les gens sur lui désormais. Ouais. Donc, on retrouve le très talentueux Enzo de EnzoF1.com. Bon. Un peu moins talentueux que Dino. Bon. Après, c'est question de goût. Ça va, Enzo?
Très bien.
C'est sûr?
Certain.
Je ne veux pas dire à quelqu'un qu'on enregistre.
C'est bon.
Je peux dire. Je t'ai dit.
Tant qu'on filme pas, c'est bon.
Je vais. Ah, parce que t'es en caleçon, il est en slip. Il est en train d'enregistrer en slip.
Non, même pas.
Ah non, mais moi je dis rien, hein. Je suis pas non plus forcément.
C'est ton droit.
Donc, on va parler ensemble du règlement, enfin des règlements 2009, mais aussi 2010.
Ah, il va se
changer. Non, je peux plus là. On va pas supporter ça longtemps. Non, mais le but c'est de faire un truc court, la A3 ça va être encore plus long. Non, Enzo, hop, tu arrêtes. Non, alors oui, alors écoute Enzo, la Formule 1 c'est un sport, comment dire, il y a des boîtes de couleurs qui sont équipées de quatre grandes roues.
D'accord.
Jusque là, ça va.
Ce qu'il faut quand même dire à tout le monde, c'est que hier, quand on a un petit peu discuté et qu'on s'est entraîné sur
l'enregistrement,
j'ai obligé de balancer. Ce grand monsieur qui est Enzo, qui fait de si bons dessins sur la F1 et qui semble toujours juste, etc., a quand même osé me demander, c'est ce week-end que ça commence? Voilà, hein. Donc, attendez-vous à tout.
Le pire, c'est que t'es pas compris la blague, quoi.
Oui, non. Arrête. Le coup de la blague, moi aussi, je l'ai fait il y a 2-3 ans. Hein. C'était pas une blague. C'était une blague? C'était une blague? Ah, merde. Donc, les nouveaux règlements pour cette saison. Shinji.
Allez, j'en passe le bébé.
Principalement, c'est des changements de réglementation technique et surtout de l'aérodynamique des voitures. Le principal point, le truc le plus visible, c'est les ailerons. Puisqu'on a droit à un aileron avant gigantesque et un aileron arrière tout petit, mais aussi haut que la Tour Eiffel.
En fait, c'est pas Jean-Louis Mosset qui ressemble, c'est Eugène Saccomano.
Voilà.
Gigantesque.
Oui, en effet, avec les belles pelles à tarte, enfin des pelles à pizza pour Ferrari. Mais moi, je trouve ça beau, moi.
On note aussi la suppression des appendices aérodynamiques.
Ouais.
Ça c'est bien. Il y a plein de gens qui voulaient que ça disparaisse, ça a disparu. Il y a dessin.
Quand on dit suppression des appendices aérodynamiques, on a quand même vu Williams nous mettre deux quéquettes juste derrière les pilotes.
Et Ferrari les rétro sur échasse.
Voilà. Mais apparemment, c'est parce qu'en fait, c'est une question de gabarit, le règlement du championnat, et c'est juste en fait toute une série de mesures dans lesquelles la voiture doit s'intégrer. Et donc en fait, quand ils ont conçu le règlement, ils ont juste pensé à tout ce qui pouvait dépasser sur le dessus. Et donc beaucoup d'écuries comme Ferrari, mais aussi comme Force India, ont intégré des petits flaps sur le côté qui s'intègrent en fait dans les cotes maximales.
Des failles hein, dans le règlement. Voilà.
On le voit avec l'histoire des diffuseurs.
Voilà. Donc, parce que si tout le bas de caisse est redessiné avec de nouveaux diffuseurs, avec tout le problème que ça engendre.
Voilà.
On en a déjà parlé.
Je crois. Voilà, tout à fait. Oui, je me rappelle, ça y est.
Moi pas, mais j'étais pas là.
Il y en a qu'il faut qu'ils bossent.
Hein. Oh, oui. Changement important. Mais là, c'est un retour. C'est les pneus slick.
Ah.
C'est ça. Il y a plus d'appui aéro, donc on remet les pneus.
Ce que j'aime bien, c'est que maintenant tout le monde sait que c'est Enzo le plus vieux des trois.
Pourquoi?
Bah, c'est pour.
Ah, vous avez jamais connu ça, vous?
Moi, j'ai connu les pneus slick, hein.
Ouais,
c'est l'autre là, le newbie qui connaît la F1 depuis
15 ans.
Quelle année que ça a disparu?
97? Ouais.
Ouais, j'ai bonne mémoire.
Mais moi, je sais lire.
Ouais, quand même, 97.
Non, mais moi, je sais pas, moi, j'ai pas vraiment de gros souvenirs. Je sais, j'en regardais la F1 à l'époque, mais j'avais quoi? J'avais 13 ans, je m'en foutais des pneus slick.
Ouais.
Moi, Häkkinen.
Häkkinen. C'est un poisson, ça?
Ah là là.
Mais c'est pas Häkkinen en 97.
C'est pas Häkkinen en 97.
Ouais, c'est
2009.
Non, mais d'accord, mais...
Häkkinen, c'est 98-99.
C'est là qu'il a commencé à gagner.
Ah, le making of. Ah. Alors, c'est à l'intégrale en fin de saison, c'est pour toi. Alors, je note, hein. Fin de saison, Häkkinen, champion 97. Hop. Il va être beau le carnet à la fin de l'année.
Ouais.
Mais c'est pas en 97 que...
Ouais, écoutez, Enzo qui rame.
Non, je sais plus, c'est en 97 que les McLaren sont repassées grises.
Oui.
Avant, elles étaient rouges.
Rouge c'était blanche. West.
Voilà, c'était Marlboro qui est parti chez Ferrari et West qui est venu remplacer.
Voilà.
McLaren. Dis-moi, Marlboro chez McLaren. Bon, ok.
Donc, oui, en 97, tu disais? C'était qui le champion?
Villeneuve, voyons.
En 96?
Il.
Bien, Damon ou
Phil, Phil. Oui,
voilà. Merde, oui, non. Phil. Donc, ouais, effectivement, des voitures cette année qui changent pas mal. Moi, je sais qu'il y avait une photo quand BMW a proposé a présenté sa voiture. Il y avait une photo en studio qui montrait les deux voitures l'une à côté de l'autre. Et bah, j'avoue que moi, ça m'a rassuré en fait à ce moment-là.
Non, 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 ça c'était une grosse connerie. En fait, ils avaient pris en photo leur chasse-neige. Il y avait beaucoup de neige en Suisse, ça fait plus long. Et ça n'avait rien à voir. Moi, j'ai peur de passer quand même 2 heures dimanche matin à essayer de régler ma télé, quoi.
Pourquoi c'est à cause des couleurs de la route?
Je suis en... Là, pourtant, je comprends pas, là. Mais non, mais bon. Non, mais elles sont... C'est moche. C'est tout.
C'est moche.
Ah bah justement. Alors, si c'est moche, je vous mets au défi de me trouver parmi les 10 voitures de cette année, les 3 plus belles et les 3 plus moches.
Facile.
Facile. Ah bah, hey, en même temps, t'as passé 10 minutes à réfléchir avant qu'on enregistre.
Chut, fallait pas le dire.
Ah mais moi, je balance tout, moi.
Non, non, les plus faciles, les plus moches, c'est facile.
Ah, les moches, oui. Ouais. Allez, on va commencer par les moches, c'est ce qui est le plus drôle.
Voilà.
Moi, j'ai surtout des photos de face. Donc, je me base surtout sur le nez avant.
Ah bah, c'est sûr que si tu prends de oui. face, tu vas rien voir de joli. Bon, il y a quand même la Renault qui va se distinguer, mais...
Bah, attends, c'est quand même la seule écurie qui essaye vraiment de faire des économies en alignant une F3. Parce que l'avant, on dirait vraiment une F3 ou je sais pas quoi, mais c'est un gros truc, là. La Williams, en fait, le nez me fait penser à une Ferrari d'il y a quelques années.
Ouais.
Je sais plus laquelle, mais la 2003 peut-être, hein. Ou 2004 peut-être.
Moi, j'avoue, c'est le seul truc que j'aime pas dans la Ferrari cette saison, c'est son nez. Donc alors, les trois plus moches. Allez, la plus moche de toutes.
Renault.
Moi, pareil, Renault.
Moi, pareil.
Ah, c'est bizarre.
Genre, on est d'accord.
Ah, mais c'est le nez qui est moche. Je suis désolé, mais là.
C'est... un parpaing.
Mais en fait, elle me rappelle, c'est quoi? C'est la Renault de... 2003, non? Peut-être 2003. Hein. Ou 2002, dans ces années-là, quand c'était Benetton, d'ailleurs. C'était pas Renault. Il y en avait une qui avait un nez comme ça, assez moche. Oui. Tiens, il faudrait regarder.
Bah, ouais, c'était bah, tout un si. Peu moche, hein.
La 2002, peut-être.
À partir de 91, de toute façon, les Benetton, elles ont toujours eu cette espèce de gros nez avec une bosse en dessous.
Ouais, bah, 93, tu vois, à peu près, quoi.
Et effectivement, c'est moche. Donc, bon, on s'entend sur Renault. Allez, la deuxième plus moche.
BM.
Moi, je la trouve jolie, la BM.
C'est pareil, le nez.
Ah, mais c'est normal, tu les as toutes de face. Ah, moi, je sais pas, il y a un truc que j'accroche pas avec la BMW, la Toyota.
C'est le nez en lui-même ou les attaches?
Mais en fait, c'est les attaches du nez. Leur plateau de nez est pas très beau. Et puis il y a plein de petits détails, je trouve l'aileron de requin, déjà remettre l'aileron de requin, je trouve ça criminel. Quoique en fait, Red Bull l'a refait, tout le monde l'a refait, mais ouais. Voilà.
Elle irait super bien si elle était décorée comme la Jordan qui était jaune avec le serpent.
Ah ça ouais.
Ouais, tout à fait. Crochet, quoi. Bah, tu vois là, tout d'un coup ça devient joli. Allez, je retire ce que j'ai dit. Non, je reste sur Toyota. Et toi Shinji, c'est quoi toi, t'as la deuxième plus moche?
Moi je trouve la consigne un peu basique. À l'avant.
Ah, à l'avant. Un seul arrière, il est trop beau. Je suis désolé, mais moi, l'arrière, faut que je le défende.
L'arrière avec le V5, on dirait presque une vieille arrose, tu sais, les dernières arroses, avec ses attaches.
Bah, celle qu'on avait vue avec
Super
Aguri. Que ça avait vachement choqué quand Super Aguri avait sorti sa voiture parce qu'on se retrouvait 15 ans en arrière, et puis que là, en fait, Super Aguri était en avance sur son temps.
Bon, maintenant, les belles.
Ah non, attends, il reste la troisième. Hey, il veut se débarrasser des moches.
Moche.
La troisième plus moche.
Toyota.
Eh ben moi, ça serait pour le nez, ça serait Red Bull.
Toro Rosso, donc.
Non, Red Bull.
Bah, c'est les mêmes.
Bah, c'est les mêmes.
Non, parce que Red Bull, alors, il y a le nez, mais en plus, Red Bull, ils nous ont remis l'aileron de requin. Et ils nous ont attaché l'aileron de requin à l'aileron arrière. ce qui fait quand même très laid de profil, c'est horrible. Si vous avez l'occasion de trouver des photos, je sais pas si ça va rester, mais c'est quand même franchement très laid comme truc. Et toi, Christophe?
Bah moi la McLaren. Hein.
Oh non.
Ah, alors,
la moins moche de tout. Elle a un nez en forme de suppositoire, ses pontons, son arrière, on dirait qu'elle s'est pris des anabolisants tellement ça fait bodybuilder.
Ouais. Et
ben justement. non, mais justement, je trouve que.
C'est vrai qu'elle ressemble pas aux autres.
Alors voilà. Non, moi c'est la plus belle, je trouve. Moi, c'est vrai que je dis ça.
je vais être entre les deux parce que c'est vrai que moi, il y a des trucs qui m'ont choqué quand je l'ai vu. Le nez, je trouve que c'est l'une des équipes qui a sans doute le plus beau aileron avant. Ouais. Ils ont aussi un très bel aileron arrière qu'on n'a pas eu le temps de trop voir en essai cet hiver. Moi, ce qui m'a choqué surtout, c'est le ponton. Je trouve que après le museau, elle a un museau super costaud et elle a des pontons très larges. Donc, moi, j'avais vraiment l'impression que ça lui donnait un aspect très massif. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, quand on la regarde dans l'ensemble, c'est l'une des plus homogènes.
C'est vrai.
Il y a des voitures comme ça, comme la BMW, je les aime bien parce qu'elles sont homogènes.
Bon, je te suis pas sur BM, mais pour McLaren, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a un gros consensus sur Renault. Et puis après, c'est plus panaché.
À un moment, il y avait une info comme quoi l'aileron avant, justement, c'était juste pour les essais et qu'ils allaient venir en Australie avec un nouveau aileron avant. Mais un nouveau nez, c'est vrai ça ou pas?
Moi, je sais pas. Moi, je sais que ils ont fait des tests il y a quelque temps sur un aéroport où ils testaient d'autres choses et on n'avait pas vu. Tout le monde s'attendait à ce que le nez change et on n'avait pas du tout vu le nez. Donc je pense que c'est pas impossible qu'ils ramènent un nouveau museau en Australie. Moi je sais que sur le site F1 Action, à un moment donné, il y avait une photo. C'était un photomontage avec une Renault et le Renault avait un nez assez traditionnel comme il faisait ces dernières années. Et la voiture était franchement très jolie. Et donc, si on tape dans les plus belles, on va dire...
Les moins moches.
Ouais, pour vous, c'est les moins moches. Non, mais sérieux, les gars, faut s'y faire maintenant. Je vais recommencer, mais faut s'y faire. Hein. C'est fini, les fins d'année dernière. Hein. Non, mais franchement, comparez la BMW de l'année dernière et mettez-la juste à côté. C'est sûr que c'est très joli. Hein. Mais c'est super chargé. Les pilotes, ils manquaient de se couper une jugulaire en montant dans la voiture à cause des petites cornes qu'il y a à l'avant du museau. C'était n'importe quoi, c'était devenu trop dangereux.
Si tu le dis.
Ah, toi, tu vas faire qu'une émission, toi.
Tyran.
Mais oui, tout à fait.
Dictateur.
Ah, j'assume. Donc, au niveau de la troisième plus belle.
Bon, tant pis.
Pourquoi?
Non, mais en gros, j'avais du mal à trouver plus belle. Donc j'ai mis Ferrari.
T'as mis Ferrari en troisième position?
Ouais. J'ai mis Ferrari.
Quoi?
un tympan en moins.
Moi, je me donne pas des positions. Hein.
Ouais, non, c'est quand même la troisième, la troisième plus belle. En fait, c'est...
Non, c'est la septième plus moche en partant de la fin. Non, huitième d'ailleurs, pardon.
Ah mais sérieux les gars, pourquoi Ferrari?
Ben justement, parce qu'elle est rouge, c'est tout. Mais c'est tout ce qu'elle a, quoi.
Ah non.
Parce que je la trouve trop j'aime.
Non, j'aime pas les rétros. L'aileron arrière, il a rien de particulier.
L'aileron avant, c'est de la merde.
Non, mais bon...
Moi j'aime bien la Ferrari, c'est qu'il y a les roues qui sont super belles. ouais, c'est vrai, ouais. Et le pire c'est que je suis obligé de la mettre troisième.
Ah toi aussi.
Je vous engueule et en fait je suis obligé de la mettre troisième. Mais je serais pas, enfin moi j'aime beaucoup l'arrière, j'aime beaucoup l'aileron excepté arrière, parce que c'est vrai que l'aileron arrière est assez classique. Quoi qu'en fait,
je suis... Ouais.
Et en fait, moi j'aime beaucoup le capot moteur. Je trouve que vu du dessus, c'est une voiture qui est très travaillée, qui est très jolie, en forme de bouteille de Coca-Cola. Et ouais, moi j'aime beaucoup.
Et en couleur aussi, de Coca-Cola.
C'est vrai.
Je m'attendais vraiment à ce que l'aileron avant soit un peu plus travaillé au cours des essais, et puis l'aileron arrière qui change un peu. Puis apparemment, il n'y a pas eu de changement. Donc, bah voilà, pas eu de changement. En deuxième position, en neuvième position,
la Brown.
Ouais.
Et ouais. Moi, c'est ces ouvertures dans le capot, sur les flancs, quoi.
Ces ouvertures sur les flancs.
Ouais, ces pontons, je les trouve trop jolis.
Ouais.
Et elle a un nez de Ferrari.
Voilà, moi c'est le nez voilà. Qui.
Ouais, elle a un nez très bas par rapport aux autres.
Elle a un air de des Ferrari que Brown a décidé du moins à l'époque où il y était, quoi.
Ouais, et c'est vrai que moi c'est une
et très jolie. Le pire, c'est qu'il y a même le même pilote. En fait, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé. Il l'avait déjà conduite, cette voiture. Il y a 4 ans, 5 ans.
Mais là, je pense pas que peut-être que Ferrari sera capable de se plaindre pour vol de plan, etc.
T'imagines s'il y avait eu le même moteur, en plus.
Oh la vache. Non, c'est vrai que c'est une très belle voiture. Et dès qu'on la voit, moi, ce que j'aimais en la voyant, c'est que, moi, je l'ai mis en premier, hein, la Brown. Eh ouais, c'est pas la Williams. Parce que je suis sûr tous les deux que c'est la Williams que vous mettez en premier.
Ah non, moi c'est McLaren, je l'ai déjà dit.
Ah, c'est la McLaren. Moi j'aime beaucoup la Brown parce que dès qu'on l'a vue en fait, elle est sortie du lot et elle a semblé beaucoup plus aboutie que les autres.
Ouais.
Et on a senti effectivement qu'ils avaient commencé à travailler dès l'année dernière.
Parce que c'est surtout qu'ils l'ont sortie 3 mois plus tard aussi.
Il y a aussi ça, oui.
Oh, tout de suite, vous êtes mesquins envers cette équipe, mais c'est une petite équipe.
Ah, non, 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 c'est pas... Ils ont eu raison.
C'est la règle. Hein. Et donc, toi, Shinji, c'est
la Williams.
La Williams en deuxième.
Ouais, je dirais plutôt la Williams en deuxième et je mettrais la Brown en premier.
Et la Brown en premier.
Ouais. Mais c'est kiff-kiff, hein. Ça se joue pas beaucoup.
Mais c'est vrai que la Williams, c'est pas mal non plus.
La Williams, c'est pas mal. J'ai toujours aimé cet aspect depuis quelques années. Et elles sont toujours jolies depuis quelques temps, les Williams.
Les Williams, ce qui est déprimant, c'est les couleurs, quoi. Je veux dire, depuis des années, là, c'est pouf.
On l'a vu là aux essais, c'est tout noir, enfin tout bleu nuit, c'était pas très joli à voir. Là, ce que tout le monde a aimé en fait dans la Brown, c'est qu'on l'a vu en blanc. Donc tout de suite, elle nous a semblé familière, on a pu la voir. Et c'est vrai que on a du mal à tilter sur la Williams premier abord parce que on voit pas les détails. Que
oui, c'est ça. Tu vois pas les choses qui échappent à l'œil. Sombre.
Alors que c'est vrai quand on a le temps de la regarder en détaillé, quand on a des photos plus précises avec des angles bien cherchés, c'est une très jolie voiture. Mais ça comme disait Shinji, ça fait des années qu'ils nous font des belles voitures. Mais moi, j'aimais bien les livrer il y a 2 ans. Il y a 2-3 ans, juste après le départ de BMW, quand il y avait un peu plus de blanc et que le bleu était un peu plus... il y avait plusieurs nuances de bleu.
Oui.
Mais là, c'est bleu-blanc.
Ouais. Ça lui aide de se détacher des autres voitures, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge sur toutes les autres.
C'est vrai. Mais même quand elle est sortie, elle était noire, limite, quoi.
Elle était,
elle était bleu nuit, mais vraiment bleu nuit, bien. Nuit,
et c'est d'ailleurs ce que tout le monde disait sur les forums, c'est que on la voyait pas la voiture. Donc
Que l'Australie ça se finisse un peu tard, et on va plus la voir.
Oui, c'est vrai que l'Australie ça va commencer à 17h.
On a perdu une voiture.
Moi j'imagine les mecs au soir en train de bouffer puis dire il est où Rosberg? Bah il tourne encore.
Non, pour Nakajima ce serait pas une grosse perte, mais pour Rosberg quand même.
Ah ouais, toi t'es fan de Rosberg.
Ah, j'aime bien, moi.
T'aimerais bien qu'il parte de chez Williams.
Ah non, il l'a plus cette année.
Ah ouais, il l'a plus. Hein. Et donc, dans les plus belles ou les moins moches de toutes, toi tu disais McLaren.
Ah oui.
C'est vrai, elle est plutôt jolie. Moi je mets BMW. Parce que il y a des choses que j'aime pas chez BMW, mais contrairement à vous, j'aime bien son museau. Même s'il est carré, même si je trouve que de face il est plus effilé que Renault, là où Renault ça fait massif, là ça fait une philosophie certes carré,
oui.
Mais
c'est sûr.
Ça change. Il y a beaucoup de trucs que j'aime bien, les pontons très très façon les voitures d'IRL Donc très relevé à l'extérieur, puis qui redescendent à l'intérieur. Je trouve ça très, très joli. Et puis encore une fois, la BMW l'année dernière était très surchargée. Là, ça m'a fait plaisir de voir une BMW un petit peu clean. Et donc, toi, Shinji, c'est la brune.
Ouais, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que ce blanc fait qu'en plus on la voit bien. Et c'est vrai qu'elle a l'air très travaillée, cette voiture.
Ouais.
Et pronostic, elle sera de quelle couleur en Australie ?
Alors, ça ?
Moi, je pense qu'elle sera, je pense qu'elle sera toujours blanche.
Ouais, voilà. S'il y a quelques sponsors, ça m'étonnerait pas que ça soit juste en noir sur sur les parties blanches ou.
Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que si vraiment il n'y a pas de sponsor, ils feront sans doute une opération avec une livrée faite par les fans, en mettant comme avait fait, je crois que c'est Honda qui avait fait avec. De quoi ?
Les fans.
Ouais, les fans. Enfin.
Il y a déjà des fans de Pro GP.
Mais non, mais c'est vrai qu'ils ont été soutenus par beaucoup de gens qui souhaitaient que le projet continue à avancer, parce qu'on sait qu'on savait dès le départ que c'est une écurie qui avait du potentiel quand même. Et c'est vrai que c'était dommage aussi de voir Honda, qui est quand même un constructeur qu'on aime bien dans le sport auto, parce que ils ont une vraie philosophie de sport auto. Donc il y a des gens qui avaient vraiment envie, donc je pense que ça serait un bon moyen que de mettre la photo de tous les gens qu'ils ont soutenus, ou alors de mettre des signatures, ou de faire un truc symbolique, ça pourrait être sympa.
T'as envoyé ta photo?
Moi, tant qu'ils nous mettent pas le globe terrestre dessus, ça me va.
Certes.
Ah, y a quelqu'un qui fait la vaisselle.
Non.
Ah.
Non.
Ah. Tu bois un café alors?
Non plus.
Ah merde.
Non plus.
Donc voilà, donc la plus moche, la Renault. La plus jolie, ça se bat entre la Braun et la McLaren.
Mais on a tous les trois, c'était la Braun.
Voilà.
On va dire la Braun, donc.
Voilà, donc la Braun la plus jolie, la Renault la plus moche. Ouais.
Et donc, vous en avez sans doute déjà parlé, donc toutes ces petites voitures vont avoir des pneus avec des flancs verts, des flancs moments.
Ah non, c'est vrai, on n'en a pas parlé.
C'est le bon moment d'en parler, en effet.
Et ben, justement, moi je voudrais juste, parce que je me baladais sur le site StatF1, et j'étais sur la page de Benetton. Allez voir la Benetton de 86. Elle a un pneu de chaque couleur. C'est une horreur.
Attends.
Benetton. Ils ont autorisé un truc pareil?
Ouais. Ah, c'est United Color of Benetton. Un pneu bleu clair, un bleu foncé, un rouge et un vert.
Intérieur et extérieur.
Ah, l'horreur.
C'est incroyable.
C'est ignoble.
Mais ouais, c'est laid.
C'était Pirelli à l'époque, hein.
Faut chercher, je pense, même sur Google, on doit trouver la B186. Bah, je cherchais, hein, 186.
C'est Pirelli, 86, à mon avis, dedans, il y avait... c'est un moteur BMW, tiens. Il y avait Berger.
Ouais, sur Google Images, il suffit de chercher B186 et on tombe assez facilement dessus. Il y a même des... ils ont même fait des modèles pour enfants.
Ah bah oui, je dois l'avoir en plus.
Avec les pneus colorés et tout. Mais c'est vrai que cette année, quand même, le vert.
Ouais.
On en avait déjà parlé l'année dernière avec Shinji au Japon. Avec le coup, ils avaient eu l'idée de faire les quatre rayures vertes. Là.
Mais c'est lié à ça.
C'est lié à ça. C'est pour reprendre le message écologique.
On va continuer sur ça.
Moi, je suis pour l'écologie, mais je vais pas mettre un slip vert, quoi. Je mets des slips orange, des rouges, mais je mets pas que des verts. Donc faut arrêter avec le vert, pourquoi pas bleu. En plus, là, du vert sur du rouge, moi, ça m'énerve. Moi, je voulais des flancs rouges, comme c'était en champ-car. Là, au moins, ça allait sur toutes les voitures.
Enfin. On est sûr que ça va pas partir en roulant.
Non, ça c'est vraiment sur le côté de la bande de roulement.
D'accord.
Par contre, les pneus pluie, eux vont bien avoir la bande sur le milieu.
D'accord. C'était con
parce qu'ils auraient pu garder l'idée de tout laisser sur le côté.
Oui.
C'était pas plus mal. Ça faisait homogène au moins. Donc voilà, ça c'est les gros changements de cette année, c'est les changements visuels. Globalement, en conclusion, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Non seulement visuellement, mais aussi au niveau des performances. Est-ce que vous croyez qu'au niveau des performances, parce que le but c'est quand même de faciliter les manœuvres de dépassement. Ah, j'adore. On sent pas du tout que t'es engagé. Non, mais c'est quand même fait apparemment, puis même les pilotes semblent dire que ça va peut-être aller dans ce sens-là pour réduire l'effet de traîne derrière les voitures, faciliter les dépassements, en plus du KERS qui va donner une sorte de push to pass pendant quelques secondes dans le tour, ça va redonner du spectacle, non?
Bah oui, ça va réduire la traînée puisque bon, physiquement les flux d'air vont être modifiés. Maintenant, est-ce que ça va favoriser les dépassements? C'est pas la première fois qu'il y a des changements de réglementation et ça a jamais eu vraiment d'effet sur les courses.
Non, le problème, c'est que tout le monde réclamait les slicks pour rendre justement les fins plus jolies et pas de bol, la même année,
Ils ont mis les slicks parce que en fait, en réduisant les appuis et notamment en réduisant l'aileron arrière, la voiture devient beaucoup plus survireuse. Enfin, c'est ça, survireuse.
Ouais.
Donc l'arrière se barre assez facilement. Donc en fait, les pneus slicks, c'était fait. Ils ont accepté de remettre les pneus slicks pour redonner plus d'équilibre à la voiture. Mais quand on regarde les vidéos des F1 pendant les essais, on a quand même des voitures qui glissent énormément. Et que ils le disent, hein, c'est Jean-Louis Moncet qui le dit dans sa vidéo d'avant-saison.
Jean-Louis le dit.
sans pneus slick, les voitures feraient des têtes à queue ou partiraient. Donc là, on sait que Massa est bon à ce jeu-là. Mais, quoi qu'il a été battu par Trulli. Hein.
Et sinon, de l'aileron avant, ça va amener quoi? C'est ça aussi.
Le grand plateau avant?
Oui, tu sais qu'ils peuvent changer ces deux ou trois fois par tour.
Oui, c'est vrai qu'il y a les trois plans qui vont être inclinables. Bah, ça sera changé une fois par tour. Mmh. Et en fait, parce que ça va permettre effectivement, quand t'es derrière une voiture, de réduire tes appuis. Ça va permettre de t'adapter en fonction des conditions. Moi, je sais qu'Alonso disait dans une interview que si lui voulait dépasser une voiture, il avait juste à descendre un petit peu ses flaps à l'avant et il allait être plus facilement aspiré.
Ouais.
Pas oublier de le remettre au virage d'après, quoi.
Faut surtout pas oublier de le remettre. Quoique, c'est une fois par tour, donc apparemment, les mecs devront vraiment réfléchir à ce qu'ils font parce que tu le feras une fois par tour et t'auras plus le droit de le faire pendant le tour.
Bon, par contre, ce qui est inquiétant, c'est la largeur de ce truc devant, quoi.
Oui.
Il va avoir du carbone partout sur la piste.
Ah, ça, c'est certain.
J'espère qu'ils en ont emmené une bonne dizaine à Melbourne, là, parce que...
Les départs vont être chauds, puisque le KERS, lorsqu'ils commenceront la course, les batteries pourront être chargées.
Ah oui, il suffit juste de monter à 100 km/h.
Voilà.
Et effectivement, même avant la course, rien dans le règlement ne les oblige à mettre des batteries vides.
D'accord.
Donc les mecs peuvent très bien mettre des batteries qui seront déjà chargées et les mecs qui partent avec le KERS.
Ils vont pas se priver d'ailleurs.
Donc ça veut dire par exemple une équipe comme McLaren qui est pas forcément très rapide en ce moment et dont tout le monde pense qu'elle va pas se qualifier aux avant-postes à Melbourne, ils vont partir avec le KERS. Donc si c'est comme ça, ils vont peut-être pouvoir facilement gagner 3 ou 4 places dès le départ, ou alors perdre un ou deux ailerons.
Ça va être un vrai budget maintenant, le budget aileron. Hein.
Et c'est pour ça que moi je te dis, c'est pour ça que chez Mosley et chez Ecclestone, on s'est battu pour que Toro Rosso, ils prennent Bourdais. Ils voulaient pas de Sato. Ça coûte trop cher en matière première, c'est pas économique.
Oh merde.
De quoi?
Je viens de cliquer sur la flèche dans Stat F1 pour revoir les F1 de 2008. Qu'est-ce qu'elles sont belles.
Ah ouais.
Oh le coup de déprime. Oh là là, c'est terrible. Oh sans rien. C'est déprimant.
Attends, saison 2008.
Non, ne vous faites.
Oh c'est vrai.
Oh là là. Ah, c'est vrai que les appendices, il y en a moins. Hein.
Mais en fait, voilà, pour rendre heureux tout le monde, il aurait juste fallu enlever tous les appendices de celle de l'an dernier.
Et moi, voilà, je suis désolé.
Et voilà, c'était parfait.
Moi, je trouve... Voilà, sur les ailerons, je suis d'accord. Sur les ailerons, je suis tout à fait d'accord. Mais franchement, la BMW, la Ferrari, dans une certaine mesure, ça, il y a certains trucs sur la Ferrari qui sont en trop. Moi, j'aime bien, assez bizarrement, j'aime bien la Force India, par exemple.
Arrête, la plus belle, c'est la Super Aguri. Je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était aussi belle, quoi.
Ouais, la Super Aguri, très jolie. Mais apparemment, il préparait déjà cette année. Mais même quand on prend, par exemple, la Toro Rosso, il n'y en a pas partout. Moi, ce que je voulais surtout pas cette année, c'est ça le truc, en fait, on est passé du coq à l'âne. La BMW, c'est une horreur, quoi. À regarder, c'est horrible. Moi, je suis désolé, mais il y en a partout.
Ouais, c'est vrai.
Tu sais pas comment t'approcher, t'as peur que ça te pique. Tu te dis.
Un porte-épique, ce truc.
Tu te dis, je vais m'approcher de la voiture, je vais jamais en ressortir. Le mec, il va partir, je serai coincé dans l'aileron.
Bon, on se fait mal, là. Allez.
Allez.
Ouais. On y retourne.
Allez, on va remettre. Alors on a perdu Enzo. On va faire ça.
En fait, faut dire aux auditeurs vraiment qu'ils se mettent devant leur PC, qu'ils prennent StatF1 et qu'ils fassent les manips en même temps que nous.
Voilà. Donc on vous redonne la manip. Vous allez sur statf1.com, vous allez dans saison. Saison, vous cliquez sur 2009. Tout en haut, en dessous de 2009, vous avez tous les modèles de F1. Et il suffit de cliquer sur la petite flèche qui va vers la gauche au-dessus de voiture. Et là, c'est le choc des civilisations. C'est vrai, vous avez raison. Non, moi, ce qui me manque surtout, c'est le museau de la Ferrari. C'était un bijou, ce nez.
C'est vrai.
Oh là là. Les autres, c'est de la merde.
Allez, on arrête. On
Donc, autre proposition. Alors là, on a vraiment parlé des propositions 2009, mais avec la période de crise que traverse en ce moment le monde et l'univers.
C'est surtout sur Mars, il paraît. Il y a ouais. Un taux de chômage phénoménal.
Moi, j'ai un copain en ce moment qui vit à Mars et la baguette de pain, elle est à 19,75€. Bon, il y a plein de frais de douane et compagnie, mais c'est un peu galère. Donc, niveau des propositions, on peut dire que... On peut dire que les équipes ont quand même fait un énorme effort durant l'hiver pour réduire les coûts, pour réduire les essais privés, pour licencier des gens. Ça me fait pas rire, mais en fait, c'est drôle.
Pour engager des seniors, par exemple, chez le Grand Prix.
C'est vrai, hein, bon, le Grand Prix, il faut saluer. Mais, et puis, ils ont encore continué à prévoir pour les années à venir. Dans les propositions, il y a notamment plus de pédagogie auprès du public avec des grands pontes, des écuries qui seraient à la télévision, un accès un peu plus libre au stand, un peu à l'américaine où on pourrait toucher des modèles de Formule 1, pas forcément les Formule 1 qui vont rouler, mais des modèles en démonstration. Aussi apparemment encourager les télés à faire un peu plus d'interactivité. Avec Shinji, on suit la NASCAR et c'est vrai que sur tous les circuits de NASCAR, il y a un mec, il est là, il est à côté d'une voiture qui est totalement désossée et il a fond tourné dans tous les sens. Il nous montre ce que c'est qu'une casse moteur et je pense que c'est vrai que
il y a parfois des interviews avec les pilotes. Hein.
Ouais. Il paraît même que les pilotes devront dire merci quand on leur donne la coupe sur le podium maintenant.
Ah bon? Parce qu'il y en a qui le disaient pas. Ah, tu vas me dire, je me rappelle bien de l'histoire de Schumacher qui avait je sais plus, il avait fait l'idiot sur le podium pendant l'hymne italien. Ah, il avait été convoqué 2000, lundi matin.
En 2000, quand il a été sacré champion du monde pour la première fois avec Ferrari.
Il était tellement tout content que il avait été convoqué par le président de l'Italie, un vieux con, et qu'il avait dit, c'est intolérable, vous pouvez pas faire ça pendant l'hymne italien.
Bon, il avait pas été convoqué, mais c'est vrai que le président du conseil italien avait critiqué son attitude sur le podium. Alors que les autres, là, ils attendaient le titre depuis 20 ans, 21, et ils sont même pas contents. Bon, bref.
Ah, mais c'est surtout c'est que ils m'entendraient chanter l'hymne italien chez moi tous les dimanches quand Ferrari gagne, mais c'est pas Schumacher qui s'en prendrait. C'est à moi.
On a vu ce que ça donnait sur le slogan de... du SAV de la F1.
Donc, au programme aussi, il y a...
Oui, c'est lui qui chante, c'est vrai, je vous assure. Arrête, je n'ai pas cautionné, d'ailleurs, j'ai refusé ma participation.
Oui, alors d'ailleurs, on va mettre un sondage avec le service après-vente. Je m'engage tout de suite. Voulez-vous que Enzo participe avec
s'il
nous
revient,
S'il revient, voulez-vous qu'il... Alors, on va faire tout simple. Si vous voulez qu'Enzo reste dans l'émission et que, pour cela, il doit chanter dans le générique, vous voterez oui. Et sinon, si vous dites c'est pas grave, il peut rester même s'il chante pas, vous voterez le deuxième choix. Et donc, quand on fera prochain SAV après le Grand Prix de Sepang, si jamais le score il est plutôt pour que Enzo chante, et ben Enzo sera obligé de chanter ou sinon il ne participera plus à cette émission.
Je demanderai un contrôle des adresses IP hein, sur les commentaires pour être sûr qu'il n'y a pas eu triche.
Alors, je vais appeler tous mes copains. Alors, 1, 2, 3, ok, ça y est, c'est fait.
J'en ai aussi.
Ah, merde.
Le problème, tes copains, t'en as déjà deux qui sont là, quoi.
Ah ouais, c'est vrai, tiens, Enzo, tu peux pas aller voter pour toi? Non, mais je m'en fous, j'irai voter à mon boulot, j'ai 15 ordinateurs avec 15 IP différentes.
On verra.
Donc, au programme, il y a aussi moins d'essais cette saison. On en a déjà parlé avec Shinji tout à l'heure. Les essais seront plutôt le vendredi des week-ends de course. Moins d'essais privés entre les week-ends de course. Bonne chose ou mauvaise chose?
Bah, pour les écuries qui vont mal commencer la saison, ça va être dur.
Penseras-tu à McLaren par hasard? Non, Yannick, arrête avec McLaren.
Elles pourront progresser, ils ont des outils. Mais c'est vrai que ne pas pouvoir tester comme ils veulent les pièces, ça va être un frein.
Mais c'est vrai que c'est ça le truc, c'est que on l'a dit un peu plus tôt, c'est seulement il y a les essais privés, mais il y a aussi tous les tests en soufflerie qui sont limités. Maintenant, je crois que les souffleries devront être éteintes 8 heures par jour. Et puis
franchement, comment ils vont contrôler ça, quoi? C'est incontrôlable.
Mais ouais.
Je sais pas, mais ça.
C'est une belle question, tiens. Comment vous contrôlez?
C'est un peu comme si. Pardon?
Non, je sais que c'est une bonne question. Mais ça fait un peu comme ce qu'a fait Ferrari. Il y a une polémique là au début des essais parce que Ferrari allait essayer son Kers sur la 908 de chez Peugeot. Donc ça en a fait gueuler certains sur les forums qui disaient ouais c'est de la tricherie, etc. C'est vrai qu'à partir du moment donné où on limite les essais, ça va limiter les essais pour tout le monde, c'est très bien. Mais ça va pas empêcher les grosses équipes qui ont des moyens et qui ont les contacts de faire ailleurs. On avait le même problème en NASCAR.
Non, pas faire ailleurs, Ferrari. Non, désolé.
Et c'est cette. Maintenant, vous comprenez le rôle important que j'ai sur EnzoF1.com. Hein. C'est voilà. ce genre de blague, je les retire.
Arrête. Arrête. C'est tes blagues préférées.
Je sais, c'est pour ça que je les reconnais. Je les retire parce qu'elles me font rire. Donc, mais c'est vrai que nous, il y a quelques années, on avait eu, quelques années, même pas, il y a un an, en NASCAR, c'est un bon moyen de comparaison. Je sais, Enzo, ne rigole pas. En NASCAR, ils avaient aussi limité les essais, et tout ce que ça avait fait, c'est que les grosses écuries allaient par exemple prendre d'autres pneus ou courir sur d'autres circuits, ce qui rentrait pas dans le règlement, donc ils faisaient autant d'essais qu'avant. Et en fait, ça favorise que les écuries qui ont plus de pouvoir et plus de moyens.
Ouais.
Puis ça pose en plus la question des... ça va, Enzo?
Oui, oui. Non, je me faisais une réflexion que je pourrais proposer à la FIA, c'était d'imposer des pilotes pour faire les essais tels que Ralf Schumacher. Au moins, ils sont limités rapidement, les essais. Quoi.
Mais arrêtez de me faire rire, à chaque fois, je pars dans une quinte de tout.
Désolé, je le ferai plus.
Non. Non, mais Ralf Schumacher, non. Ah, ça sera drôle. non, mais c'est vrai que faire des essais spécifiques par des jeunes pilotes, parce que c'est vrai que, du coup, malheureusement, on l'a vu, là, c'est avec Schumacher, qui.
Lequel?
Michael. Quand je parle de Schumacher, tu sais très bien de qui je parle. Sinon, je dis l'autre.
C'était une privette.
On se la fait tout le temps, celle-là. Ouais. Mais ça qu'on a vu avec Schumacher, qui avait tout de suite dit au début de l'hiver que lui piloterait pas la Ferrari parce que les kilomètres étaient devenus trop précieux et que c'était au pilote titulaire de le faire. Et malheureusement, on va se retrouver. Il y a plein de pilotes comme Alonso, comme Piquet, qui ont démontré leur talent. Marque bien des pauses, hein. En faisant des essais pour les équipes et donc qui ont réussi à grimper. Hein. Malheureusement, ça maintenant, on l'aura plus.
Comme Montagny ? Pardon.
Ah, mais Montagny, il a quand même réussi à se faire voir ailleurs.
Oui.
C'est bon. À se faire remarquer ailleurs.
Oui, parce
que... Non, mais quand on regarde cette saison, les pilotes qui ont fait des essais, si on prend la liste des pilotes qui ont été pilotes essayeurs avant, il y a Alonso qui a été essayeur. Il y a Buemi qui a été essayeur. Il y a Button qui a été essayeur. Il y a Kovac.
Non, Button, jamais.
Il n'a pas été essayeur chez Benetton à une époque ?
Bien sûr que non. Il a été chez Williams tout de suite et l'année d'après, il est allé chez Benetton. Mais il n'a jamais été essayeur.
Ah, d'accord. C'est toi qui vas devenir notre Jean-Luc Moncey. Tu connais plus de choses que Cindy, en fait.
C'est pas impossible. Et moi, je connais plus de choses que toi.
Ben voilà. Truc. Ah, non, mais moi, j'assume.
Je connais les trucs plus vieux, moi.
Voilà, bah ouais. Hein. Et 75 ans, ça se fête.
Enfoiré.
Bon, Hamilton, lui, il a jamais rien essayé. Kovalainen, il a été essayeur. Massa, il a été essayeur. On sait que ça lui a apporté de faire une année d'essai chez Ferrari. Parce qu'on se rappelle, sa première année, tout le monde lui jetait
chez Sauber.
Il a été chez Sauber en première année où il a cassé quasiment toutes les voitures. Il a d'ailleurs recommencé cette année à Silverstone. Et pourtant, il a fait une année de pilote essayeur chez Ferrari et ça l'a vraiment changé. Enfin, il a appris beaucoup de choses.
Glock, il était troisième pilote chez Jordan aussi.
Ouais.
Avant de participer à une course au Canada.
Il a même fait une course, ouais. Et puis on a eu Vettel qui avait fait des essais pour BMW, donc
Kubica aussi.
Pour qui?
BMW.
C'est vrai. Et donc voilà, on a quand même aujourd'hui beaucoup de pilotes sur le plateau qui sont des pilotes essayeurs, et malheureusement on les verra plus. Et quand on sait que certaines équipes sont frileuses à engager des petits jeunes, je pense que ça va encore jouer en faveur des gros qui vont prendre les meilleurs pilotes des petites écuries pour s'occuper d'eux.
Et des vieux pilotes. Le bonheur des vieux pilotes.
Ouais,
c'est vrai, tiens. Donc, autre changement. Alors, les grands changements. La grande décive de printemps. Décidée par la FIA. Il y a 15 jours.
Les médailles.
Alors d'abord, on a eu les budgets à 33 millions d'euros.
Ça, ouais. C'est pas mal. Parce qu'il suffit, il suffit qu'on vende quelques bouquins en plus, on pourra monter notre équipe.
Quelques bouquins en plus.
Je t'ai pas tout dit sur les comptes, pardon.
De quoi, attends. Ah, c'est comme ça que tu te payes ton nouveau... c'est quoi ta voiture, là, ton nouveau Scénic?
Ah non, c'est pas un Scénic.
C'est quoi?
C'est trois Picasso.
Ah, oh, c'est mieux. Ah, il est beau. Hein. T'en es fier, tu le regardes tous les jours?
Je l'ai pas encore.
Non, mais sur Internet?
Je me suis calme.
C'est ça, j'ai remarqué ça cette semaine. Tous les mecs qui achètent leur nouvelle voiture, qui est en commande et qui savent qu'ils vont se faire livrer dans 2 mois. Moi, j'ai un collègue qui s'est acheté la Sandero.
Ouais.
Bon, rien de drôle. Mais tous les jours, il va sur Internet regarder l'image de la Sandero.
Ah.
Et j'ai remarqué, c'est un truc chez tous les mecs qui attendent leur voiture neuve. C'est pareil. Donc je sais pas. C'est peut-être le fait que j'ai pas mon permis.
T'as pas ton permis?
Non, j'ai pas mon permis.
Non.
Non.
Et tu commentes la
F1? Ouais. Et j'ose dire que Piquet sait pas conduire. Alors moi non plus, je sais pas conduire. Mais encore une fois, c'est parce que justement, je sais pas conduire que je peux juger ceux qui savent pas conduire.
Tu te sens plus près d'eux.
Voilà, je les reconnais. Donc 33 millions, c'est beaucoup, c'est pas, c'est...
Pourquoi pas 34?
Ça fait peu 33.
Non mais c'est vrai qu'on passe quand même d'une période où il y avait...
Dites 33. 33.
Le problème c'est que 33, chez certaines écuries, c'est le budget pilote.
Ah bah là, chez Ferrari, ils sont ruinés. Hein. Mais en fait, le principe, c'est... Alors c'est... Techniquement, c'est pas un budget plafonné à 33 millions, c'est que, en grosso modo, ceux qui n'auront qu'un budget de maximum 33 millions bénéficieront de liberté technique et compagnie.
D'accord.
Ouais.
Voilà, donc en fait, on est libre d'aller au-delà. Mais c'est quand même passé d'un budget, pour certaines équipes, c'est aujourd'hui, c'est dans les 200 millions. On est bien d'accord, faut réduire les budgets, mais descendre à 33 millions,
Non, mais comme dit Sinji, hein, c'est le budget pilote dans certaines écuries. Alors, si c'est pour voir Massa et Kimi courir à pied, c'est pas la peine, quoi.
Même Force India, ils sont au-dessus des 33.
C'est ouais.
Oh la vache.
Je crois que cette année, le budget minimum, déjà même le budget minimum, le budget prévisionnel de USF1, l'équipe américaine, je crois que c'est 50 millions. Ouais. Donc déjà eux qui pourtant se disent on va faire ça avec des moyens modestes, déjà eux ils ont conscience qu'en dessous de 50 millions c'est pas faisable.
Oui. Ouais, mais ça c'est les idées à Mosley, il lance toujours un truc extrême pour
ouais, voilà,
essayer d'arriver à la moitié de ce qu'il veut, quoi.
Mais par truc extrême, est-ce que tu considérais ce que j'appelle le fucking system championship points? Est-ce que tu qualifierais ce système qui attribue le titre à un pilote parce qu'il a gagné beaucoup de courses, est-ce que tu dirais que c'est une mosselerie? Étais-tu déjà au courant?
Oui, quand même. À l'époque, c'est une bernisserie.
Ouais, c'est une bernisserie modifiée.
Non, mais c'est quand même génial, c'est qu'à la base, c'est l'idée à la con de Bernie de dire on va donner des médailles parce que ça fait plus jeux olympiques.
Ouais.
Parce que ça déstabilise en fait le fan. Bon, on sait tous, on a des copines, on a des amis, de la famille, dès qu'on est fan de sport auto, on sait très bien qu'on est les seuls à regarder. Qu'il n'y a que les fans de sport auto qui regardent. Donc, s'il y a vraiment un sport, on n'a pas besoin de s'aligner sur le reste, c'est bien le sport auto, et l'autre abruti vient nous dire, oui, ça serait bien qu'on rende ça plus démocratique, qu'on mette des médailles, c'est plus clair pour les gens. Mais nous, on est habitués à calculer le par système de points.
Mais même pour les gens, c'est plus simple avec les points.
Non, mais surtout, moi, je trouve que ce qu'il veut, c'est valoriser la victoire. Mais il y a plein d'autres solutions. Il y a ce qui va sans doute arriver, c'est-à-dire remettre la victoire à un peu plus de points. Mais surtout, moi, ce que je trouve, il y a peut-être un truc qui était, bah, vous étiez peut-être pas né ou vous suiviez pas l'époque, la F1 à cette époque-là, mais c'est à l'époque de Senna ou Prost, tous les résultats ne comptaient pas.
Ouais.
Et je trouve le concept pas mauvais parce que t'as droit à un joker. Et ça permettait à un pilote de dire, allez, je prends le risque d'attaquer, de remonter. Si je me fous dehors, je me fous dehors, ça sera mon joker. Mais au moins, j'essaye d'avoir la victoire, quoi.
C'est vrai, ça.
Moi, je trouve le concept pas mauvais, quoi. Alors après, tu peux dire, oui, mais ça privilégie pas le gars qui est constant, tout ça, quoi. Et c'est d'ailleurs, mais puisque Prost avait été sacré comme ça, mais au moins ça laisse la place à l'erreur, quoi. Un minimum.
Ah, ça, en plus, c'est vrai que c'est le truc de parce que ce qu'a proposé la FIA, grosso modo, c'est ce qui est très drôle, c'est que la FIA s'est opposée au système de Bernie. Mais en fait, nous en a pendu un pire parce que seul le vainqueur était récompensé et puis les autres, ils avaient juste rien. Donc, ça faisait qu'effectivement, le suspense des courses tel que le championnat était vu, le mec qui dominait la course, bah derrière, personne ne se cassait la tête et qu'il y avait des mecs qui se disaient, bah moi, je pars 12e, je vais pas m'embêter à me déchirer, je vais préserver ma voiture et mon moteur. Et donc, on aurait eu sur certaines courses des défilés. Alors que justement, on nous dit que le but du jeu, c'est justement de pimenter les courses et de donner plus de challenge à la victoire pendant la course.
Ouais, tout à fait.
Je trouve l'année dernière, avec le système actuel, l'année dernière, on a gagné pas un champion, mais deux champions. Donc à la limite, je préfère ce système-là. Et c'est vrai, comme tu dis, accorder pourquoi pas des jokers, virer le plus mauvais résultat.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a plein de bonnes idées. Et ils ont pondu ce truc. Bah, à part Bernie, personne ne l'avait évoqué, quoi.
Ouais, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils font des sondages, des fois, on a l'impression que derrière, ils s'en foutent complètement.
Ouais.
Mais c'est là, en plus, c'est-à-dire que là, ils se sont étonnés de la réaction des gens, mais ça veut dire que les mecs, ils comprennent strictement rien à la Formule 1. Les mecs, c'est ce que je trouve mesquin, c'est que on sait maintenant que c'est un truc politique. Enfin, c'est parce que la FOTA a pris beaucoup de décisions et c'est vrai que la FOTA sort très grandie de ce qui s'est passé cet hiver parce qu'ils ont pris énormément de décisions. Ils ont fait des consensus sur les règlements dont on a parlé, etc., etc. Et je pense que ce règlement, c'était surtout de dire à la FOTA, très bien, prenez des décisions. Mais c'est nous qui choisissons, et votre système de 12 points, 9 points, 7 points et compagnie, vous allez vous le mettre à côté, et on va vous donner pire.
Ouais. Parce que, en plus, ça,
c'est un peu purement politique, alors qu'à la base, on avait quand même la FIA qui était à côté des équipes pour dire le système de Ecclestone est nul. Donc c'est vraiment purement politique. Et moi, c'est ce qui m'énerve. Et quand je vois aujourd'hui dans un article...
On le sent pas du tout.
Ah bon? Ah merde, je vais rajouter une couche. Quand je vois aujourd'hui dans un article, c'est hors sujet, mais quand je vois Bernie Ecclestone qui dit ouvertement, publiquement, qu'ils ont décidé de mettre Honda en dernière position et qu'ils vont leur retirer les bénéfices des biens commerciaux de l'année dernière.
C'est n'importe quoi, ça.
Et qu'il ose dire que c'est parce qu'ils ont refusé son offre. Mais c'est-à-dire que le mec, il a rien compris.
C'est de l'abus de pouvoir.
Voilà, c'est un dictateur. Alors c'est vrai que des fois, je défends Bernie parce que, voilà, sur certains trucs, je trouve qu'il peut être défendu. Mais à un moment donné, faut pas non plus sa gueule. Et je comprends la haine qui peut attiser contre lui. Parce que moi, on peut demander à Shinji, hein. Moi, quand ils ont annoncé le nouveau règlement pour les points, mais j'étais dans une colère. Le soir, ils ont
tout.
Assez bizarrement, tout le monde en a parlé sur toutes les chaînes de télé. Alors là, c'était l'actualité sportive du jour.
Ouais.
Sur France 3, France 2, tout le monde en parlait. Et j'avais la télé commande à la main et à chaque fois, je zappais, quoi, parce que j'en avais marre. Donc, ouais, je trouve qu'on méprise le fan et on méprise les équipes. Et je trouve ça con. Et moi, je suis content que la FOTA se démonte un peu.
En plus, leur proposition était... Bon, c'est peut-être pas parfait, mais c'était intelligent, quoi, de faire passer la victoire à 12 points, de peut-être envisager la possibilité de mettre des points bonus.
Ouais. Non, mais faut se dire que Mosley, il a plus longtemps à faire.
Ah, tu crois
que... C'est un petit Jean-Todd qui le remplacera sans doute, quoi.
Oui, c'est vrai que, quand même, le timing de Jean-Todd pour partir de la Scuderia est quand même bien choisi. Ouais. Mais j'avoue que moi, le départ m'a pas fait grand-chose.
Ah, on peut pas dire ça, quand même.
Non, mais j'étais pas ému. Parce que pour moi ça fait 2 ans qu'il est parti. Moi ça pour moi la page a s'est tournée il y a 2 ans. Là il quitte Ferrari, bon il y était déjà plus vraiment.
Ouais, c'est vrai.
Donc ça m'a pas forcément ému. Rose Brown qui devient propriétaire, ça m'émeut.
Ouais.
J'ai pleuré quand j'ai vu la Brown Grand Prix.
Et s'il était capable de faire revenir Michael
en pilote?
Oula.
Il a bien fait revenir Barrichello.
C'est vrai.
Il va reconstruire la Dream Team. T'imagines?
Alors là, tout le monde se chie dessus. Parce que, on peut aussi se dire que si Todd part, c'est pas forcément pour la FIA. Peut-être qu'il va chercher de l'argent pour Brawl Grand Prix.
Peut-être. Et en plus, Mercedes a toujours dit qu'ils auraient bien voulu faire piloter Schumi.
Ouais.
Et ben là, c'est un moteur.
Alors mais là, tu vas voir, Ferrari va signer un accord, ils vont se mettre d'accord, pas de problème.
J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi Ferrari a refusé. Bon, bref.
C'est bête parce
qu'on n'est pas dans le
sens. Je pense que c'est aussi peut-être de leur volonté commune, tous les deux, enfin aux deux parties, de se dire tout le monde s'attend à ce qu'on signe ensemble pour que cette écurie puisse vivre. Autant qu'on signe pas, comme ça on pourra pas dire que c'est parce que c'est grâce à Ferrari. Ou je pense qu'il y a eu aussi cette volonté de ne pas servir d'argument au fait que voilà c'est une écurie Ferrari bis, que c'est à Ferrari ce que Toro Rosso est à Red Bull.
Ouais. Au passage, la règle des moteurs elle change cette année.
Ouais.
4 grands prix, non?
Non.
Alors non, justement, c'est plus 4 grands prix, c'est 8 moteurs. Non,
ah, oui,
c'est 8 moteurs par saison.
Exact.
Et ça, par contre, ça c'est super bien. Parce qu'en fait, les écuries donc auront 8 moteurs par saison. Et en fait, ils pourront installer un moteur, par exemple pour Melbourne. Et si le moteur pour Melbourne, ils savent qu'il fera pas, Singapour, mais qu'il peut très bien faire, je dis au hasard, le Hungaroring. Et ben, ils pourront garder le moteur pour le Hungaroring.
Et s'il y a 2 grands prix de la fin, celui qui est en tête du championnat, il a cramé ses 8 moteurs, il finit à pied.
Eh ben, il perd 10 places. Il a le droit de changer de moteur, mais il perd 10 places sur la grille.
Ah, il a pas de pédale dans la voiture, ouais. Quand même.
Non. C'est-à-dire que, en début, pénalité. Mais par contre, ça peut tomber, quoi.
Ouais, entre nous, ces dernières années, les moteurs explosés, ouais. On en a pas vu beaucoup, quand même.
Voilà.
Surtout qu'ils ont encore réduit. C'est 18 000 tours maximum cette année.
Et puis bon, bah,
je vais bientôt pouvoir inscrire ma Saxo.
Donc voilà globalement sur les changements, c'est on va demander au plus vieux, celui qui suit la F1 depuis quand tu suis la F1 d'ailleurs.
Eh, figure-toi que je vais faire très vieux là. Non, c'est limite ma grand-mère qui m'a mis à la F1 quoi.
Ah bon?
Ouais, elle venait chez mes parents le dimanche et elle regardait la F1 et elle regardait Ferrari et elle me disait, tu vois, Ferrari, ils ont gagné. Et bah, c'était, on va dire, 90.
Ah bah c'est pas si tard que ça, en fait.
Non, j'ai commencé assez tard et après, je me rappelle par contre, me lever à 5 heures du mat quand j'étais ado et prendre mon vélo pour aller chez un copain parce que je recevais pas la 5. Et à l'époque, les Grands Prix étaient sur la 5, commentée par Tambay d'ailleurs. Et je prenais mon vélo pour aller à l'autre bout du village voir le Grand Prix chez un copain.
Ah, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est un peu le truc que je trouve dommage cette année avec l'Australie, c'est que l'Australie, on va devoir se lever à 8 heures.
C'est vrai. Ouais.
Mais moi, j'aimais bien me lever à 4 heures.
Oui, mais toi, tu bosses pas.
Ouais, non, mais le dimanche...
Ça fait partie du charme, quoi.
Je parle pas des essais, mais c'est vrai que le dimanche était sympa. À la limite, moi, les qualifs qu'ils mettent à 8 heures, ça me dérange pas. Mais la course, ça avait vraiment, moi, j'aimais bien l'Australie, ça avait vraiment ce côté pour le fan, quoi. Il y a une bonne ambiance.
D'un autre côté, ça m'est arrivé aussi de me lever un peu plus pour le rater, tomber sur chasse et pêche, et de m'endormir devant et rater le début du Grand Prix.
Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans. Moi j'ai arrêté en fait de me lever à 14h du matin pour commencer à me coucher à 6h. D'accord. Voilà. Sauf que ça m'est arrivé il y a 2 ans, j'ai raté le premier quart d'heure de la course. J'ai dû télécharger le Grand Prix parce que j'ai pas vu le début de la course. Je voulais voir le départ et ça. Et puis comme par hasard, bien sûr, dès que tu rates le début, ils te rediffusent plus jamais le départ.
Ah oui.
Voilà. Alors c'est quand même le truc qu'on devrait rediffuser 10 fois dans la course.
Donc forcément, t'avais pas vu la course de Ralph.
Ouais.
Il y a 2 ans, peut-être, ouais.
Je sais plus.
Je me demande si c'était pas l'année où les deux Ferrari avaient fini dans le mur. C'est l'année où Melbourne était en deuxième course.
Il a été champion du monde quand même.
Voilà.
En 17. 2007, donc, pardon.
Pour toi, et ça fait 20 ans maintenant que tu suis assidûment la F1, c'est...
Oh là là, le coup de vieux, là. Waouh.
Attends, nous, ça fait 15 ans, hein.
Ouais.
Moi, c'est depuis 94, depuis la mort de Senna.
Pouf.
Ouais. À la même époque.
Moi, je le remets à là parce que je me souviens pas d'être fan de F1 à ce moment-là, mais je me souviens d'avoir regardé la course.
Ah, moi aussi.
Et je me souviens du début de la course, enfin de l'accident et tout, du regard de la famille et la maison parce qu'on trouvait ça horrible. Je crois que je suis vraiment devenu fan de Formule 1 on va dire une dizaine d'années, grosso modo. Mais fan, hein. Au point de faire une émission.
Ah ouais, quand même.
Ou des dessins.
Ouais. Non, t'as jamais fait de dessin.
Non, oui.
Si, t'as essayé.
Ah, c'est petit, ça. Et toi, Shinji, toi, c'est pareil, c'est 94.
Ouais, 94, mes plus vieux souvenirs, c'est 93.
93,
Parce que je me rappelle, tu sais quoi, de la Williams de 93... Et d'un de ses sponsors.
Camel.
Sonic.
Voilà.
Ah oui.
C'était qui?
Sonic.
Ouais, c'était Sonic.
Sonic, ouais.
Et je me rappelle, le sponsor était sur le côté, à l'avant des pontons.
Et il avait les pieds de...
Voilà, ça faisait les pieds de Sonic, comme s'il pilotait la voiture.
Et à l'époque, quand à chaque victoire de Prost qui était chez Williams, il mettait sur son aileron arrière une petite tête de mort. Et Senna, lui, à chaque victoire, mettait un petit hérisson écrasé. Pour prouver qu'il avait battu la Williams.
Ah, ça, c'est du Senna, ça.
Ah ouais, c'était bon. Et moi, je me rappelle la course, la première course dont je me rappelle vraiment, c'était, ça devrait être au Paul Ricard en 90, le Grand Prix de France, où Prost, sur Ferrari, a dû doubler Yvan Capelli, qui était sur une, elles étaient violettes, là, pas violettes, mais une Leighton House, à 2 tours de la fin, quoi. Voilà. Ça devait être, je crois, la 100e victoire Ferrari, ou un truc comme ça, ou pas loin, quoi.
Ah, oh, t'as participé à l'histoire de Ferrari.
Pouf, c'est beau.
Tu es un sage pour nous.
Pouf.
Un mentor.
Pouf.
Un maître.
Vas-y, quand
t'es notre pépé.
Ouais.
Maintenant, on t'appellera pépé.
Non,
donc, d'après vous, globalement, est-ce que la F1 qui se prépare ces années à venir, c'est plutôt positif ou c'est un peu n'importe quoi? Ah, question philosophique.
Là, ouais.
on peut pas dire que la F1 ce soit n'importe quoi. Il y a un changement, bon, on verra quoi. Je pense que si ça peut remettre un peu de spectacle, c'est très bien. Par contre, on peut pas dire qu'on en ait manqué ces deux dernières années, donc.
Oui, c'est vrai.
Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quand même.
Mais c'est moi ce qui est le problème de la F1, c'est qu'on a toujours réagi à des situations précises. On voit cette année Massa, tout le monde voulait qu'il soit champion parce que bon, c'était la belle histoire. Et puis en fait, il n'était pas champion alors qu'il était plus grand vainqueur. Donc on va rechanger le règlement. Et donc c'est ainsi de suite. On n'a pas une F1 qui est stable. Donc c'est ce qui me chagrine un peu dans ces règlements, c'est que on n'est pas sur une base stable. Et surtout pour certains points, quand je vois le budget à 33 millions. La F1, ça reste un sport d'élite. Ça reste les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs constructeurs. Je vois pas ce qu'a à foutre des trucs standards. Voilà, moi quand je vois le Kers, j'en parlais avec Shinji un peu plus tôt. Ils vont faire le Kers standard en 2010. Bah dans ce cas-là, il fallait faire dès cette année. Il fallait pas demander aux équipes de claquer des millions. Ou alors dans ce cas-là, on dit la F1, c'est justement de l'expérimentation. C'est aussi un concours des plus innovants. Et bah dans ce cas-là, on laisse chacun faire son Kers, chacun se débrouiller, chacun développer son moteur, et on ouvre un peu plus les règlements.
Et attends, parce qu'il y a un truc qui m'a peut-être échappé. Ils ont rien fait pour les essais cette année.
Bah il y a
non,
toujours la même règle
pour l'instant. Ils ont parlé de l'échanger, mais...
Mais par contre, dans les règlements, ils s'entendent pour 2010 à une modification du format.
Oh, putain, mais les 12 tours de qualif comme c'était, et puis voilà, tout le monde en même temps, c'était très bien, quoi. Ou au moins vide, quoi. Au moins.
Voilà. Ouais, voilà. C'est surtout ça le truc, c'est que le système de Super Pole tel qu'il est, il est très bien. Tout le monde s'accorde à dire que c'est très bien, mais le truc qui est pas bien, c'est effectivement le dernier relais. Le dernier relais. Bah comme ça, on est obligé de partir avec le plein. C'est un peu crétin, quoi. Pourquoi, à la limite, ne pas faire cette phase avec le plein, s'ils tiennent vraiment à faire un truc avec le plein, faire cette phase en Q2, dire voilà, là, toutes les équipes qui sont en Q2 font le relais avec le plein, et puis bah on a une grille avec le plein, et puis bah les 10 mecs qui sont les 10 derniers, bah là ils se lâchent à vide, et puis on voit vraiment qui est le plus rapide pour que vraiment en Q1 ce soit le temps de pôle qui soit signé. Parce que là, aujourd'hui, les pôles, elles sont pas signées en Q1, elles sont signées en Q2. Donc,
Tout à fait.
Donc voilà.
Rapide par dixième, par exemple.
Voilà. Toi, Shinji, parce que je t'ai pas demandé, excuse-moi. Plutôt bien, plutôt mauvais, plutôt.
J'attends de voir.
Ouais, t'es
pour moi, les courses. Non, mais. C'est les pilotes qui font les courses. C'est les circonstances. C'est pas. Comme tu l'as dit, hein. L'an dernier, on a eu beaucoup de spectacles et il n'y avait pas ces règlements-là. Qui fait les courses, c'est le fait qu'on ait 5 ou 6 pilotes qui sont capables d'être champions du monde, 7 ou 8 qui peuvent gagner potentiellement. C'est ça qui fait les courses. Et pas un aileron de 2 mètres de long.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que ça sera ouvert de toute manière. Cette année, on aura quoi ? On aura 19 pilotes qui peuvent gagner ?
Ouais. Tu retiens oui. C'est. Alors on est curieux, c'est savoir qui est le 20e.
Devine.
Alors ça va jouer entre Piqué et Barrichello.
Mon podium, mon œuvre.
Alors surtout ne ratez pas le site d'Enzo F1 en fin de semaine. Hein. On vous prépare quelque chose. Donc maintenant si on passait au concret, on passait un peu à la course de dimanche.
Ah, je croyais que tu voulais un pronostic pour la saison complète.
Ah bah on peut faire après ou avant, c'est à vous de voir.
Ah. On fait après, on finit.
Allons-y. Alors,
pour Melbourne, vous voyez qui déjà, on va dire en pôle. Moi perso, moi je mets l'une des deux Brown Grand Prix.
Ah ouais.
Je pense qu'ils vont tenter leur chance. Aller rapide. Ouais. Je pense que ils seront derrière en course. Mais je pense qu'ils vont tenter.
Button en pôle.
Button et Barrichello première ligue.
Ouais. Non, c'est pas possible, arrêtez.
L'un des deux, Button, pourquoi pas Button?
Mais non.
Ça fera un énorme scandale, mais.
Moi je parie que non.
Bah, après ça, c'est un dilemme, c'est-à-dire que c'est vrai que si malheureusement Brown Grand Prix fait un très bon week-end, étant donné la polépique.
La polépique.
étant donné la polémique sur les diffuseurs, ça risque d'ouvrir une crise entre les écuries dans les prochaines semaines. Donc c'est pas souhaitable. En même temps, ça serait bien de voir entre guillemets une petite écurie gagner. Ça renouvellerait l'histoire de Toro Rosso l'année dernière.
Attention, la pole ça veut pas dire qu'on gagne. Hein.
Ouais. Oui, non mais faire une belle prestation.
Sinon les Ferrari. Hein.
Donc toi, si tu mets pas en
belle pole, je suis sûr.
Je suis sûr qu'Hamilton a caché son jeu.
Toi, tu fais partie de ceux qui pensent que les deux secondes que McLaren prend dans la bulle à chaque essai privé, c'est cacher son jeu.
Ah ouais, complet.
À ce point-là?
Attends, ah, tu trouves la McLaren jolie et tu penses que McLaren est performante.
Ah, Van Denis sort de ce corps.
On se demandait où était passé Van Denis, maintenant on sait.
Non, sans rire, ça me paraît trop gros, quoi.
Ouais.
C'est quand même une super équipe, quoi qu'on en dise. Je les vois pas à la rue, c'est pas possible.
Et je pense que quand même, c'est le même mec qui, il y a 6 mois, m'a engueulé parce que j'ai osé faire un truc où Dino était fan de McLaren. Et là, il est en train de faire son coming out.
Je pense juste que c'est un peu trop gros d'imaginer qu'ils seront pas dans le coup, quoi.
Donc toi tu vois Hamilton en pole.
J'ai pas dit Hamilton en pole, mais à mon avis il sera dans les 4 premiers, facile.
Ouais.
Attends, c'est comme si je te dis Ferrari, ils vont finir derrière Force India, tu vas me
Attends,
dire.
Attends, le truc c'est que Ferrari ils ont toujours été devant Force India pendant les essais d'intersaison. McLaren, ils ont souvent été derrière. Avec un moteur égal.
Donc, ouais, mais c'est justement ça qui est pas possible. Dis-moi, c'est bon. À mon avis, ils seront quand même. Dis-moi, Hamilton, je le vois pas au-delà de la 4e place. Moi, okay. Si c'est pour faire les deux premières lignes, je vois Hamilton, Kimi Massa, Alonso.
Tu vois Alonso devant? Mais n'empêche, moi, à un moment donné, il va falloir que tu te repenses sur tous tes pronostics pour l'année 2008, Enzo.
Enfoiré. Oh le coup bas. Oh le coup bas.
Il suffit juste que j'en lise des trucs, mais attends, parce que dans le bouquin 2000 pour la saison 2007, on avait fait nos pronostics, d'accord, très joli pronostic d'ailleurs, et je lis par exemple concernant Honda, j'avais dit cette année ils finiront bien, mais les autres aussi, donc je les avais mis 5e au classement final, et toi t'avais dit 4e, mais c'est mon dernier mot.
On est forcément, me rappelle Red Bull. Ils m'ont l'air sérieux et plus stable financièrement que Super Aguri. Bon, bref, qu'est-ce qu'on a pu dire comme connerie?
Ouais. Il y avait quoi d'autre? Alors, on mettait un duel Kimi Massa.
Ouais, mais il a tourné court. Hein.
Je dois reconnaître effectivement ce que j'ai dit de Massa. J'ai dit en interne, même si Massa est talentueux, il ne fera pas le poids sur la saison entière.
Ça va avoir honte, tout le monde pensait ça il y a un an.
C'est vrai.
Vous vous souvenez, après 2 grands prix, Massa c'était limite s'il n'était pas viré de chez Ferrari.
Viré, tout à fait.
Il y avait déjà Alonso dans le baquet en 2009.
C'est vrai.
C'est vrai. Et d'ailleurs, Alonso faisait de gros appels du pied.
Oui.
Donc, ouais, on avait fait des bons pronostics. Il y avait quoi d'autre? Ah, maintenant faut qu'on aille au bout. Hein.
Bah, ouais.
Tu disais un truc vrai.
Ah.
Concernant Renault, tu disais, tu oublies l'effet Alonso. En 2006, McLaren était à la rue et hop, en 2007, avec le magicien espagnol et des plans Ferrari, ils se retrouvent en tête.
Moi, j'ai parlé des plans Ferrari, non?
Ouais. On avait dû rajouter ça après coup. On trouvait ça drôle.
Ouais. Et donc, toi, Yannick, pour la pole à Melbourne?
Pour la pole, bah, moi, je vois Button. Parce que je pense qu'ils vont jouer leur coup. Hein. C'est comme je te disais dans la première partie de l'émission, je pense que Brawl sait très bien que pour avoir des sponsors, c'est dans la course, quand les caméras sont là, qu'il faut faire les prestations et pas pendant les essais privés. Donc je pense que Brawl n'a pas fait d'esbrouf pendant les essais privés, qui sont vraiment l'une des meilleures équipes. Et voilà, ça tiendra pas sur la saison, mais je pense que lors des premières courses, ils vont être très performants. Mais ça sera serré avec les Ferrari.
Ouais.
Pourquoi ça tiendrait pas sur la saison alors à ce moment-là?
Parce qu'on n'est pas sur du budget.
Oui.
Parce que ça reste une petite équipe, parce que ils ont été ça a quand même été développé par Honda, donc c'est Honda, ils ont mis les moyens pour développer la voiture. Ils ont abandonné leur voiture. Pour la course.
Qui va gagner à Melbourne dimanche?
Raikkonen.
Bourdais.
Cash direct.
Raikkonen.
Tu vois, ça là, juste pour te faire chier, là, ta blague, je vais la garder, puis je vais supprimer la vraie réponse. Toi, tu vois qui Gigi?
Moi, je pense Raikkonen. Et si c'est pas Raikkonen, je pense pas ça. Je pense... Non, mais... Elle risque d'être assez débridée. Pas mal de casse. Il y aura sans doute des surprises sur le podium, par exemple. Mais au final, celui qui va gagner, ça sera, je pense, un pilote, un top pilote, un pilote d'expérience.
Ouais.
Donc, même si on a un Brown en pôle, au final, le nom du vainqueur ne sera pas une surprise. Par contre, sur le podium, peut-être... ou dans les points.
Ouais. Et toi, Enzo?
Je suis pas doué, moi, dans ces pronos.
Attends, mais...
J'écoute ce que dit Shinji, et c'est vrai, à mon avis, il y aura beaucoup de casse, donc ça sera quelqu'un qui partira en milieu de green. Alors, je sais pas, Trulli. Eh, c'est quelqu'un d'expérience, voilà.
Bon. Ça se tient.
Non, ça se tient. Ça tient, mais sinon Ferrari.
Après Bourdais, après Trulli, v'là Ferrari.
Non, sincèrement, bien sûr que je pense que ce sera un Tom Team, mais s'il peut avoir une surprise, ouais, pourquoi pas un Trulli qui sort du chapeau comme ça, ouais. Si la Toyota a l'air pas trop mauvaise, elle peut être là.
Yannick, pour toi, c'est Raikkonen, c'est juste Raikkonen comme ça.
Non, parce que je pense que, comment dire, Raikkonen en a pris beaucoup l'année dernière dans la figure. Il a besoin de, c'est sans doute sa dernière saison ou son avant-dernière saison, et je pense qu'il a besoin de reprendre un peu du poids de la bête.
Oh, il a remonté comme une pendule, ça c'est clair.
Il a perdu du poids, il a fait pas mal de kilomètres, il s'est fait très discret pendant l'été.
Pour perdre du poids.
Il paraît même qu'il a moins bu.
Oula, là c'est pas bon signe par contre. Mais voilà, enfin là on sait qu'apparemment, je crois qu'il est déjà, il est déjà à Melbourne, donc il est pas en train de faire une compétition de motoneige quelque part.
Attends, je pense qu'ils y sont tous là alors qu'il est là.
Oui. Bah, voilà, non mais on se souvient quand même il y a 2 ans d'une interview de Jean Todd. Où on lui demandait où était Raikkonen, et il lui disait, de toute façon, vous savez, des fois 5 minutes avant le départ, on ne sait pas où il est. Voilà, on se souvient aussi que la première année, le mec, avant sa première course chez Ferrari, une semaine avant, il était en Laponie en train de faire une course de motoneige sous le nom de James Hunt. Donc voilà, mais là, apparemment, il s'est calmé, il a fait des rallyes, on lui a laissé sa liberté. Il a fait 2 rallyes en Norvège ou en Finlande. Donc je pense qu'il a pas vraiment digéré la saison l'an passé. Et puis il a fait des efforts. Moi, ça reste aujourd'hui avec Alonso, ça reste le pilote le plus impressionnant.
Alors maintenant, la question à 1 million.
C'est toi qui finance ?
Ah ouais, c'est une bonne question, Alonso.
C'est 1 million de cacahuètes. Hein.
Ah bah pareil, tu finances.
Ah déjà, ça fait pas mal. Hein.
Et sur la revente, on gagne.
Qui sera champion du monde?
Et ben moi, je pense que ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas de nous dire à chaque début de saison, c'est cette année qu'on a le duel Massa-Raikkonen. Et on sait que la première année ça n'a pas été le cas, on sait que la deuxième année ça n'a pas été le cas, mais je pense que cette année on aura le duel Massa-Raikkonen. Et ça sera pas le cas. Moi, je vois Massa Raikkonen avec une grosse lutte avec BMW. Kubica et Alonso qui vont jouer, ça c'est sûr, un rôle de perturbateur. Je pense que l'année de McLaren va être très dure, donc Hamilton, je le vois se battre un peu comme ce qu'a fait Alonso cette année, en peut-être un peu mieux, mais un peu pareil. Mais pour moi, ça va jouer entre les deux pilotes Ferrari et sans doute Kubica. Et je mise davantage sur Raikkonen.
C'est quoi? Bah moi, c'est tout pareil que toi.
Ah bon?
Ouais.
Alors Enzo, c'est
Ferrari
quoi?
Ferrari et BM.
Mais moi aussi, c'est ce que je voudrais, mais...
Ah, on est bien d'accord. C'est un mélange de ce qu'on voudrait, de ce qu'on pense que ce sera.
Ouais, c'est...
Non, mais vas-y, dis-le, tu espères que ce soit Hamilton.
Non. Bien sûr que je... D'un côté, je suis vraiment fan de Kimi, donc j'aimerais que ce soit Kimi. D'un autre côté, après la saison que Massa nous a fait l'an dernier, ça me ferait plaisir aussi que ce soit lui, quoi. Ça donc j'aimerais bien un duel entre eux deux, oui, tout à fait. À mon avis, il y en aura d'autres qui, du moins, à mon avis, Alonso sera pas loin, il y aura une BM, sans doute Kubica, oui. Puis Lewis, il est champion du monde en titre, un champion du monde, il se bat toujours pour le titre l'année suivante. Ah non, pas l'an dernier, merde. Mais, voilà, à mon avis, ça va peut-être se battre au moins pendant 6 mois entre 4-5 pilotes et puis.
Ah, mais.
Puis la deuxième partie de saison, bah, il y en aura plus que 2 ou 3, c'est tout quoi.
Je te rappellerai le souvenir de, si je me trompe pas, c'est 2005. On a Alonso qui est champion, et surtout on a Schumacher qui est ridicule avec la voiture parce qu'elle est ratée, ou qui gagne.
Non, tu peux pas dire que la voiture était ratée, c'était les pneus, c'était l'histoire des pneus.
Ouais, non, mais globalement, voilà, ils avaient mal créé la voiture par rapport aux pneus. Les pneus font partie des paramètres, donc ils avaient mal réglé la voiture, ils avaient mal conçu la voiture par rapport aux pneus. La voiture était pas bonne, c'est pas Schumacher qui était pas bon, c'est la voiture qui était pas bonne. Et il n'a pas été champion alors qu'il était champion en titre. Et la seule victoire qu'elle a gagnée, c'est contre 4 autres voitures, des Jordan et des Minardi. Donc voilà, moi je pense qu'on peut très bien avoir une saison de Hamilton comme ça, un peu meilleure parce que je pense que McLaren va se réveiller en courte saison et que Hamilton est un super pilote et qu'il va gagner des courses. Mais pour moi, il y a quand même du souci à se faire.
Est-ce que vous pensez dans la course au titre un pilote un peu surprise, parce que vu les circonstances et les changements de règlement, ça peut on a oui, vu Raikkonen peut. En 2003
non j'y crois pas parce que comme a dit Enzo tout à l'heure, quoi qu'il arrive de toute façon à la fin ça sera les grosses équipes qui seront devant.
J'ai dit ça
oui, enfin t'as dit ça par rapport à la course, enfin
j'ai qu'ils viennent jusqu'à la fin hein.
Voilà, enfin c'est je pense que oui on aura peut-être
un. La Toyota marcherait bien ou un Vettel par exemple.
On aura peut-être un Vettel, mais faut pas non plus attendre à ce que tout d'un coup la hiérarchie change. Les gros bras restent des gros bras. On aura Alonso devant, on aura Raikkonen devant, on aura Hamilton qui même s'il a pas une bonne voiture, et ben sur son talent personnel fera ce qu'a fait Alonso cette année, c'est-à-dire se mettre plus en avant. Donc voilà, on aura les mêmes. Après oui, il y aura des mecs qui vont s'inviter, qui vont pas forcément se battre pour le championnat, mais qui vont se battre régulièrement pour la victoire et puis mettre un petit peu de piquant, comme Vettel.
Non, pas Piquet.
Ce qui est drôle, c'est que quand tu dis Piquet, on pense au Pinard. Mais pourquoi pas Nico Rosberg, ça ferait plaisir. En plus, ça ferait plaisir à Enzo.
C'est vrai qu'il rappe, hein. Même ça. Ouais. Contre le mur. Ça rappe la piquette.
Elle est bonne, ça là, c'est con que tu puisses pas la faire en dessin.
On parie.
Oh. Ouais, je dis que c'est faisable, hein.
Je te parie tout ton livre 2009.
Oula.
Que t'es pas capable d'en faire un dessin.
T'es nu.
Donc, à l'été va être long. Je sais plus ce qu'on disait. Non, mais même Rosberg à la limite peut s'inviter dans les clients, mais moi sur Vettel j'ai aucun doute, mais Vettel c'est le problème, c'est Red Bull. Depuis qu'ils sont là à Red Bull, ils font toujours des bons débuts de saison, puis ils s'écroulent en plein milieu. L'année dernière, ils avaient quand même une voiture très performante qui pouvait se battre avec Renault et Toyota pour des bonnes places, et puis ils ont fait de la bouse, quoi.
Dans le dernier F1 Racing que j'ai sous les yeux, mais que j'ai pas encore lu, parce que je savais pas que la saison recommençait, il y a un article sur Red Bull et notamment New Way, et le titre c'est « Et si Adrian New Way était largué ?»
Oui, ça m'a fait rire quand je l'ai lu.
Bah c'est peut-être le cas.
Ouais, parce que la voiture est pas mal, hein, mais pendant les essais, il y a eu du bon au début, puis peu à peu ça s'est éteint. Donc bon, c'est aussi parce que on a beaucoup parlé des prestations de Brown Grand Prix, mais voilà. Et à Sutil aussi qui peut se battre.
Non.
Non, je déconne. On remarquera que personne n'a parlé d'Heidfeld.
Et Physico.
Physico.
Bah, il doit se battre avec Sutil.
Ah oui, pardon.
Où ça?
C'est pour ça. Tu sais, Giancarlo Fisichella, le pilote italien.
Ouais. Mais vous avez quand même pas non plus l'embêter pendant qu'il regarde les Grands Prix chez lui. Quoi, vous voulez dire qu'il est encore en Formule 1?
Ouais.
Non.
C'est quand même surprenant que McLaren n'ait pas essayé de placer un Pedro de la Rosa ou quelqu'un d'autre.
J'en ai parlé.
Me lance pas sur de la Rosa. J'ai poussé un coup de gueule sur de la Rosa dans la première partie de l'émission.
Moi, j'écouterai ça plus tard, alors.
non, c'est vrai que c'est étonnant, mais bon, l'année prochaine, il y en aura un.
Deux.
De pilotes McLaren, enfin, de pilotes maison.
Ouais, il y a des chances, ouais.
Parce que si Kovalainen fait une saison de valet comme il l'a fait l'année dernière, cette année, avec la voiture qu'ils ont, ils vont sans doute donner leur chance aux deux pilotes.
Et si c'était lui, la surprise?
Kovalainen?
Peut-être.
Ouais. Bah, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. J'adore le pilote, hein. Mais je crois pas en l'équipe. Ils l'ont ruiné l'année dernière. À le mettre vraiment, mais je pense que même chez Ferrari, ils avaient le mérite d'être clairs, de dire voilà, il y a un numéro 1, un numéro 2. Chez McLaren, ça s'est fait où on a vraiment abandonné Kovalainen, quoi. Et je pense que surtout cette année, s'ils sont en difficulté, tout va aller sur Lewis et puis rien va aller sur Ricky.
Ah, ils ont testé des stratégies innovantes avec Koval l'an dernier.
Ah ben, ils ont préparé le terrain pour 2009, hein. Ils ont essayé de se battre pour les points.
Ouais. Voilà.
Ils préparaient le terrain.
Pour petit constructeur.
Bon, le Grand Prix.
Bah, encore une fois, hein, à mon avis, c'est comme l'an dernier, c'est l'équipe qui a le duo de pilotes le plus costaud, à mon avis. Bah, y a pas photo quand même.
Ouais, y a pas photo. Bah, depuis 3 ans, de toute façon, y a pas photo.
Ça fait.
Non, on peut pas dire ça. Il y a 2 ans, il y avait quand même un duo Alonso. Voilà. Hamilton qui était costaud en face.
Mais... Ça fait deux ans que l'équipe championne du monde est une équipe qui a un bon duo. Voilà. Et c'est vrai qu'en 2007, la lutte pour le titre était serrée parce que en face, on avait McLaren qui avait aussi un autre duo performant. Là, cette année, en Formule 1, je vois pas.
Ça a été serré jusqu'au tribunaux, quoi.
Bah, quoi que non, techniquement, même sans l'exclusion de McLaren, Ferrari était championne, donc ça change rien. Il y avait toujours cette question des points du Hungaroring.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Mais bon, je pense de toute façon, quoi qu'il arrive, ils seraient allés en appel, ils auraient perdu parce que vous voulez qu'ils perdent. Voilà. Après, c'est vrai que ça fait partie d'un ensemble et de tout. Mais quoi qu'il arrive, c'est une équipe qui avait un très solide duo, qui a gagné. L'année dernière, ça a encore été l'illustration. C'est Ferrari qui a assez facilement gagné le championnat parce qu'ils avaient un bon duo. Et encore avec un Kimi en demi-teinte. Là, cette année, il n'y a vraiment personne en face pour rivaliser avec Ferrari. Donc, sauf si Ferrari fait les idiots, je pense que pour Ferrari, le titre constructeur est touchable.
Oui, certes.
Quoi qu'on a vu, hein, qu'un homme seul comme Hamilton... parce qu'il a été un peu seul l'année dernière, pouvait maintenir le suspense. Donc il suffirait par exemple cette année que Kubica fasse une bonne saison et que Heidfeld se réveille ou que, oh, grand miracle, Piquet se mette à faire des courses. Peut-être qu'effectivement là il peut y avoir du suspense. En comptant en plus McLaren, j'ai tendance à les mettre en dehors, mais bon, McLaren c'est toujours... Dès que je parle de McLaren, dites-moi, t'es devenu un McLareniste.
Non, absolument pas.
Ça se trouve, t'as attendu le jour que Randy parte pour me le déclarer.
On peut rien te cacher. En fait, il n'y avait que Randy que j'aimais pas dans l'équipe.
Tu veux dire que cette année, on va enfin avoir des dessins méchants contre Ferrari?
Sûr. Il y en a déjà eu. Hein.
Ah bon? Non, c'est vrai que cette année, ils ont eu le droit. Dommage qu'on les ait pas publiés. Désolé.
Rappelle-toi le tout premier.
Le tout premier.
De quand les moteurs avaient cassé justement et que ils pensaient que c'était le départ de Ross Brawn chez Honda.
Mais non, en fait, c'était les moteurs, c'est ça.
Ouais.
Et il était bon celui-là.
T'en as la paternité d'ailleurs.
Merci. Mais il est bien réalisé aussi. Les... Non, mais c'est vrai.
On va arrêter les fleurs.
Non, ça arrive, il faut le dire aux gens, quand tu fais des dessins, souvent je te donne des idées ou on en discute, et quand tu arrives à me faire rire avec un dessin dont je connais déjà la trame, voilà, c'est ta touche en plus. Moi, ce dessin-là, je connaissais l'idée, et pourtant il m'a fait mourir de rire, parce que visuellement, il était très bien rendu. Bah justement, tiens, quand on parle de dessin cette année, on s'y remet.
Non, justement, je pense qu'il y en aura... Ils seront pas du tout comme les années passées. Ça, c'est un scoop.
Oh.
Non, je pense qu'il n'y aura pas de dessin post-Grand Prix de la même façon que les années passées, quoi. Ils arriveront peut-être au fil de l'eau, moins contraignant peut-être.
Bah, ça sera
j'essaierai d'aller jusqu'au bout de la saison.
Non, mais surtout c'est que là, le pire, t'as déjà des dessins de la saison dernière que t'as pas publié.
Tout à fait.
On va se faire harceler par tes fans.
Qui nous harcèlent.
En fait, on va donner ton adresse à partout et tu vas avoir 10 000 personnes autour de chez toi. Non, mais rien. Ah, on fatigue là, et ça fait une heure et demie quand même.
Prochainement, vous allez pouvoir avoir des magnettes. L'idée, c'est de faire des magnettes ou je vais bientôt vous proposer un lot de 36 petits casques.
Ah, cool. Et on pourra écrire dans les bulles ou un truc dans le genre, non?
Tout à fait.
Ah, c'est cool ça.
C'est l'idée ça.
Ah, on va se marrer, puis on te les photographiera, on te les enverra.
Voilà, tu fais tes propres histoires après.
Ah, c'est chouette ça.
Donc par exemple, tu fais une bulle de Kimi qui dit tu fais la liste des courses avec vodka.
Il est bon celui-là. Donc c'est tout pour cette émission d'avant-saison. Quelque chose à rajouter
Non.
Moi je voulais vous remercier de m'avoir invité.
Bah, c'est normal.
Et je vais vous faire un petit cadeau du coup. Service après-vente de la F1.
Ah oui! Alors ça va être rajouté en solo. Ah, c'est chouette ça. Trop cool. Ah, je vais le garder. Ça enregistre. Ok, c'est bon.
Il va me faire chanter.
C'est enregistré.
C'est collector. Non, mais tu es le bienvenu toute la saison avec nous. Quand tu veux, si t'as des trucs à dire ou ce que tu veux, tu viens.
Le problème, là, c'est que ton émission, elle fait 3h30.
Non, mais c'est la première, puis on s'est beaucoup étendu
sur plein de choses.
À la base, il faut quand même vous dire qu'au départ, on s'est réunis avec Shinji, puis on s'est dit, bon, cette année, on dépasse pas les 40 minutes. Et là,
on n'a pas dit 40 minutes.
Moi, j'ai dit 40 minutes.
Toi, t'as dit 40 minutes.
Et toi, t'as dit, c'est l'objectif.
J'ai dit, c'est l'objectif, comme... Toyota a pour objectif une victoire.
Voilà. Donc,
comme je crois énormément au fait que Toyota aura une victoire cette année, voilà.
Non, mais là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire pour cette avant-saison. Mais je pense que la prochaine fois, on fera directement toute une émission tous les trois. Puis ça ira, j'espère, ouais, plus vite. Parce qu'il faut penser, les mecs, que derrière celui qui monte, c'est moi. Et que c'est facilement 5 heures de boulot.
Ah là, bon, moi j'espérais le télécharger demain matin.
Oh là, t'es ambitieux toi. Peut-être, on verra. Mais j'ai beaucoup de coupé. Non, donc ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous après 4 mois de silence. Ça a fait plaisir aux quelques personnes qui nous écoutent.
Ah, il y en a toujours aussi peu.
Bah ouais, mais en plus le problème c'est que comme maintenant tu participes à l'émission, tu vas plus vraiment nous écouter, enfin surtout tu vas pas nous écouter jusqu'au bout. Donc
si, mais sauf que si.
Donc on perd un auditeur en te prenant dans l'équipe.
Non mais tu penses bien qu'on va mettre un lien qui va bien aussi pour...
Ah c'est chouette ça. Ouais, c'est mes statistiques du blog qui vont augmenter. Et pas seulement à cause de mon portable.
De ton portable.
Ah ouais, parce que mon blog,
j'ai
fait un article sur mon téléphone portable, j'ai mis une photo, et comme elle est blog rankée dans Google, j'ai environ 100 visites par jour grâce à cette photo.
Pas mal.
Et ça fait 3 mois que j'ai cet article, et ça fait 3 mois que tout le monde vient voir que cet article. Donc vous, si vous nous écoutez, hein, okay. Si vous avez eu la patience hein, d'attendre la fin de ces 2h30 d'émission, eh ben soyez gentils, lisez aussi mes autres articles. Je suis un homme, ne regardez pas que mon téléphone.
Ça, c'est des slogans, ça.
Donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, grosso modo, pour une review des 2 premiers Grands Prix de la saison. Et puis, ouais. On vous souhaite une bonne rentrée Formule 1. Et puis, je laisse mes amis finir l'émission en beauté. Avec un petit chant d'Enzo ?
Non, ça ira, une fois, ça ira.
C'est pas grave, je vais le remonter derrière. Ça sera pas le générique de début, ça sera le générique de fin. Voilà comment encourager les gens à écouter jusqu'à la fin.
Bon.
Allez, salut à tous.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.